Vous êtes sur RTL.
Écoutez, c'est très agréable. Merci à toute l'équipe des Petits Matins. Merci.
Très belle matinée. Tenza.
Les affaires les plus passionnantes de justice et de police sont ce matin au cœur de la matinale que nous avons concoctée pour vous. Premier rendez-vous côté justice avec le procureur de l'affaire Jonathan Daval. Il parle pour la première fois de ce dossier que nous avons tous suivi. Confidence au micro d'Alice Moreno. Dès le début, Jonathan Daval a fait partie des suspects. Voilà pour la justice. Premier rendez-vous donc dès 7h15. Mais c'est aussi l'un des plus grands flics français qui va prendre la parole ce matin à 8h. Frédéric Pechenard, ancien patron de la brigade criminelle, avant de devenir le directeur général de notre police nationale. La fameuse affaire du Grêlé, cet ancien policier tueur en série, l'a obsédé pendant toute sa carrière. Nous remonterons le fil de ses enquêtes avec Frédéric Pechenard à 8h20. Autre doublette de l'actualité, le prix de l'énergie, et en particulier de l'essence. On le sait, c'est au cœur de vos préoccupations quotidiennes. Dès 7h15, Christophe Bourou nous expliquera comment, oui ou non, baisser le prix des carburants. Mais à 7h38, coup de tonnerre avec François Langlais, qui détaillera lui des marchés de l'énergie, je cite, en folie, et ce, dans le monde entier. Alba Ventura reçoit ce matin Joe Star, ou plus exactement le petit Didier, qui raconte son enfance dans un livre qui paraît chez Robert Laffont. Ça se passait à Saint-Denis, et le témoignage, vous l'entendrez, est étonnant. Nous sommes le jeudi 7 octobre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h, le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, nos tout derniers détails sur l'adieu des supporters marseillais à celui qu'ils appelaient leur boss, Bernard Tapie.
Les négociations se sont terminées tard hier soir avec le choix d'une image forte, le corps de l'ancien patron de l'OM posé en plein centre du stade Vélodrome. Dans ce journal également, information RTL, 1 100 000 foyers concernés dès l'année prochaine par le crédit d'impôt en temps réel. Plus besoin d'avancer les frais pour payer votre femme de ménage ou votre jardinier. Et puis, l'heure de la revanche a sonné en football. Belgique-France ce soir en demi-finale de la Ligue des Nations.
La politique, Olivier Bost.
Relancer le nucléaire, c'est le choix d'Emmanuel Macron pour coincer ses adversaires de campagne.
Et on vous retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Ce sera l'image du jour, le cercueil de Bernard Tapie sur l'épaule des supporters marseillais au milieu de la pelouse du stade Vélodrome. Les négociations se sont prolongées tard hier soir pour régler les tout derniers détails de cette cérémonie inédite. Étienne Baudu, les Marseillais vont pouvoir se recueillir à l'intérieur même du stade.
Oui, à partir de 17h, ils pourront accéder à la tribune Jean-Bouin et en cas d'affluence, le virage nord sera ouvert. La famille de Bernard Tapie sera, elle, en tribune présidentielle. La finale victorieuse de 1993 sera diffusée sur les écrans et juste après le but de Basile Boli à la 44e minute, le cercueil fera son apparition. Porté par les 6 chefs de groupe de supporters, il sera déposé au centre de la pelouse. Il devrait être recouvert de 2 drapeaux entremêlés, le drapeau tricolore et celui aux couleurs de l'OM. Seront alors diffusés les hymnes du club, Jump et We Are the Champions. Le cercueil quittera ensuite l'enceinte. Des supporters pourront y déposer des écharpes et des maillots. La cérémonie devrait s'achever vers 19h30-20h. Demain matin, pas de changement. En revanche, les obsèques auront lieu à 11h dans la cathédrale de la Major. Et une chose est sûre, Guylaine y assistera.
Il aimait passionnément cette ville et demain, il va faire son dernier voyage ici. Je travaille et puis je pense à 16h, je vais venir pour lui rendre un dernier au revoir.
Et vendredi?
Il va y avoir une ambiance de folie, hein. ça va être le feu à Marseille.
Et c'est aussi la question pour ces deux jours, combien seront-ils vraiment pour rendre un dernier hommage à celui qui a si bien illustré la devise « Fier d'être Marseillais ».
Les dernières informations signées Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
À partir du 1er janvier, plus besoin d'avancer les frais pour déclarer du personnel de ménage ou un jardinier.
Le gouvernement veut simplifier la procédure pour lutter contre le travail au noir. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
C'est vous qui nous révélez cette information ce matin. 1 100 000 foyers seront d'abord concernés.
Oui, autant de familles qui utilisent les CESU, les chèques emploi service, pour des aides à la maison. Ces familles, aujourd'hui, elles payent leurs salariés pour du ménage, leur jardinier ou leur aide à domicile, par exemple 400 euros. Et elles doivent attendre d'être remboursé un an plus tard en crédit d'impôt de 200 euros. Eh bien, à partir du 1er janvier, ce sera uniquement 200 euros à régler en une seule fois. Plus d'avance à faire. Le crédit d'impôt en temps réel, ce sera moins de paperasse, moins d'argent à sortir. Alors attention, pour en bénéficier, ce ne sera pas automatique. Il faudra activer ce qu'on appelle le dispositif CESU+. Vous devrez en faire la demande. Tout est indiqué pas à pas sur le site internet du CESU.
Bon, alors ça, j'ai bien compris. C'est à partir du 1er janvier. 4 mois plus tard, d'autres bénéficiaires pour d'autres emplois à domicile seront concernés, Anaïs.
Oui, le dispositif va s'étendre progressivement à tous les employeurs du domicile. Au 1er avril prochain, si vous passez par une entreprise de service à la personne, une plateforme d'aide à domicile, une entreprise de soutien scolaire par exemple, vous aussi, vous aurez droit au crédit d'impôt en temps réel.
Et on n'a pas parlé des nounous, les gardes d'enfants. enfants, elles sont concernées ?
Mais non, pas tout de suite. Justement, d'accord. Pour les gardes d'enfants à domicile et hors du domicile, il va falloir encore patienter pour des raisons techniques. Le crédit d'impôt en temps réel ne s'appliquera qu'en 2024. Tout compris, d'après l'étude d'impact de Bercy que nous avons consultée, d'ici 2-3 ans, ce sont 3 400 000 ménages qui auront droit au crédit d'impôt sans avance de frais.
2024, donc pour les nounous, merci, patience. Anaïs Bouissou du service économie de RTL. Et Bercy compte beaucoup sur ce crédit d'impôt en temps réel pour faire rentrer les employeurs dans le droit chemin. 70 000 salariés pourraient ainsi être légalisés, selon le ministre en charge des comptes publics.
Il est 7h04. Faut-il baisser la TVA sur les prix de l'énergie ? Hier, Bruno Le Maire a dit non sur notre antenne, mais Anne Hidalgo revient à la charge.
Et l'actuel maire de Paris, candidate socialiste à l'élection présidentielle, a réitéré sa proposition choc hier soir sur RTL lors de son débat face aux délégués de l'association 40 millions d'automobilistes. Elle souhaite une baisse importante des prix du carburant.
La TVA aujourd'hui, elle est à 20% sur l'essence. Je propose qu'on puisse la passer à 5,5.
C'est concret, Pierre Chasseret. Ça se traduit par une baisse effective du prix du carburant d'en gros 20-22 centimes au litre.
Absolument.
Vous avez chiffré le coût de cette mesure ?
C'est autour de 8 milliards d'euros. Sans quoi, je vais vous dire, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Regardez la crise des gilets jaunes non gérée. Combien de milliards ont été mis sur la table ? Ça a servi à quoi ? À qui ? On n'en sait rien.
Anne Hidalgo, invitée hier soir de Julien Cellier.
Dans quelques minutes, on reviendra sur la question de la baisse des prix du carburant dans notre brigade avec Christophe Bourou. Dans un instant, RTL sur les traces du grêlé, ce tueur et violeur en série resté sous les radars de la justice pendant plus de 35 ans. Restez avec nous, bonne journée à tous, il est 7h05.
RTL Matin. RTL Matin.
7h06, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. La stupeur et l'effroi des voisins du grêlé.
Ce tueur et violeur en série a longtemps vécu en toute impunité dans la commune de Prades-le-Lez, quelques kilomètres au nord de Montpellier. Mais depuis 6 ans, pour se rapprocher de la mer, il avait élu domicile avec sa famille à La Grande Motte. Patrick Tégéraud.
Les plus proches voisins de François Véraud vont admirer ses talents de bricoleur et sa convivialité.
Parce qu'ils avaient fait le tour des maisons en se présentant, ne serait-ce qu'en informatique, ils m'ont mis beaucoup de services. Mmh. Et quand on avait des rendez-vous médicaux, on ne pouvait pas se déplacer. Il était toujours là pour nous accompagner.
Quand vous avez appris donc qui il était réellement, comment est-ce que vous avez réagi ?
Je suis dégringolé du grenier à la cave.
On ne pouvait pas y croire. Rien dans son comportement, dans son contact, ne laissait transpirer de telles choses.
De l'autre côté de la rue, Bernard se souvient de repas très sympathiques.
C'était un gars très avenant, très, très gentil, insoupçonnable.
Vous imaginez un petit peu quelle vie a pu être la sienne avec ce lourd secret à porter pendant tant d'années ?
Difficile à vivre. D'après ce que la lettre dit, il se serait arrêté en 1997. Maintenant, mystère.
Et son épouse ?
Très gentille comme femme.
Vous pensez à elle aujourd'hui ?
Oui, plus à elle qu'à lui. C'est elle qui doit porter sa croix, ainsi que ses enfants.
Père, grand-père, François Véraud a fait de sa famille la dernière victime du grêlé.
Le reportage de Patrick Tégéraud à La Grande Motte pour RTL.
Alors comment le grêlé, ancien policier et gendarme, a-t-il pu passer aussi longtemps sous les radars ? C'était l'affaire de sa carrière, la série de crimes non résolus qui le hantait. Frédéric Pechenard, ancien numéro 1 de la prestigieuse brigade criminelle, sera l'invité d'RTL à 8h20 dans ce studio et en direct.
Près de 10 mois après la disparition de Delphine Jubilard, les nouvelles fouilles hier n'ont rien donné. Le corps de cette infirmière de 33 ans n'a pas été retrouvé. Des spéléologues de la gendarmerie avaient été mobilisés pour sonder les cavités souterraines autour du domicile du couple dans le Tarn. Le mari reste le principal suspect, mis en examen pour meurtre.
Le sport avec le football, une demi-finale de la Ligue des Nations aux allures de revanche.
La France affronte la Belgique ce soir, de quoi réveiller chez les Diables Rouges et leurs supporters le mauvais souvenir de leur défaite lors de la dernière Coupe du Monde, Philippe Sanfourche.
Oui, bien plus qu'une défaite, un traumatisme pour des Diables Rouges dominateurs mais impuissants. Thibaut Courtois, le gardien à chaud, n'avait pas digéré.
Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. Avec 11 à 35 mètres du but, ils ont fait ça tout le tournoi, donc c'est frustrant parce que tu perds pas contre une équipe qui était meilleure. Je crois pas que la France est meilleure que nous.
Avoir le seum, expression consacrée depuis sur les réseaux sociaux pour traduire le désarroi et l'énervement des Belges. 3 ans plus tard, on en parle encore, mais Raphaël Varane, lui, n'imagine pas ce soir un match agressif et revanchard.
C'est évidemment un match qui les a marqués aussi. Il y aura forcément beaucoup, beaucoup d'envie. Maintenant, je pense pas que la demi-finale va jouer dans les têtes.
Un sentiment confirmé ces derniers jours par Axel Witsel, milieu de terrain belge. Le somme, c'est du passé.
Sincèrement, c'est en dehors de ma tête. Depuis longtemps, on ne commence pas à parler de somme ou quoi que ce soit. C'est derrière nous, basta quoi.
Reste surtout un match entre un champion du monde en titre et une nation en tête du classement mondial FIFA, mais surtout deux sélections en quête de rachat après un euro passablement raté.
Philippe Sanfourche pour RTL.
RTL Foot spécial demi-finale de la Coupe des Nations dès 20h40 sur RTL avec toute notre équipe des sports.
Un point de pénalité pour l'Olympique de Marseille, mais aussi pour Lens et pour Lille. Décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel après les incidents lors des matchs Lens-Lille et Angers-Marseille.
Et puis on termine, Alexandre, avec le héros du jour en Haute-Savoie.
Oui, sur les rives du lac d'Annecy, la foudre est tombée en pleine nuit sur la maison d'une femme de 94 ans. Son voisin, Kélian, jeune sapeur-pompier volontaire, n'a écouté que son courage. Il s'est précipité pour la secourir.
J'ai vu que la maison de Jeanne était touchée par la foudre. Les flammes commençaient à ravager sa toiture. Je me suis dit, il faut absolument la sortir de ce pétrin. L'issue sera dramatique si j'y vais pas. J'ai commencé à m'attaquer à la porte pour essayer de casser la porte. Ma mission première, c'était d'essayer de réveiller cette dame. Le bardage de la toiture commençait déjà à me tomber dessus, enflammé. J'ai pris Jeanne, je l'ai portée dans l'escalier pour vraiment se sauver au plus vite.
Ils m'ont embarqué en chemise de nuit chez la voisine. En ressent qu'elle y a, je serais morte. Je lui dis que je l'adore. Et que je le remercie infiniment. Vous m'avez sauvé la vie.
Eh ben, écoutez, moi je suis le plus heureux quand j'entends ces phrases-là. Ma mission première, c'était de sauver Jeanne. Je suis très content aujourd'hui, très 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 content. J'ai reçu une boîte de chocolat, et je la remercie d'ailleurs pour ce petit geste qui va tout de suite droit au cœur.
Moi je veux lui faire la bise avec le masque. Et merci encore.
J'ai eu la bise, ça me fait très très plaisir. Voilà.
Il mérite bien sa boîte de chocolat. Bon, des retrouvailles oui. Au micro RTL de Serge Puyot.
Bah, ils sont charmants tous les deux. Les courses, elles ont lieu à Saint-Cloud, Alexandre.
Et voici les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 4, le 8, le 10, le 6, le 12, le 13 et le 14. La dernière minute, c'est le numéro 6, Astrologia.
Et le journal de 7 heures nous était proposé par Alexandre Saint-Aigny. La politique, tout de suite avec Olivier Bosse. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Emmanuel Macron va relancer la construction des centrales nucléaires. Un choix du président pour coincer ses adversaires de la campagne présidentielle, nous dites-vous. Expliquez-nous ça.
Eh ben, c'est une décision à haute valeur symbolique, retrouvée de notre fierté technologique perdue, et à très haute valeur politique. C'est un coup double pour neutraliser les souverainistes, tous ceux qui veulent du nucléaire et rien que du nucléaire, et pour isoler ceux qui n'en veulent plus du tout, les écolos. Emmanuel Macron, pour relancer le nucléaire, va profiter la semaine prochaine du lancement de son plan France 2030 pour annoncer des investissements dans le secteur. La France va se lancer dans le développement de petites centrales nucléaires, très à la mode en ce moment dans le monde, et envisage, selon plusieurs sources au sein du gouvernement, de lancer plusieurs EPR sans attendre que celui de Flamanville ne démarre.
Alors, relancer le nucléaire, c'est donc un tabou qui saute à la fin du quinquennat, c'est ça ?
Oui, pour des raisons politiques, je vous le disais, et pour des raisons aussi très conjoncturelles et opportunistes. Le nucléaire a le vent en poupe, faute d'éoliennes. Il est porté par la hausse des prix de l'énergie et par la hausse des ventes de voitures électriques. S'il n'y a plus de moteur thermique en 2035, la consommation électrique va exploser. Et si tout le monde installe une pompe à chaleur, aussi. Il faut donc développer le nucléaire à long terme et les énergies renouvelables à court terme, tout en pariant sur l'hydrogène. Bref, investir tout azimut.
Mais même avec la belle opération que vous nous décrivez, cela va créer des débats et des remous par définition.
Oui, bien sûr. Le nucléaire, je vous le disais, fait un retour inespéré pour ses promoteurs, mais il a encore de gros défauts. Il faut 10 à 15 ans pour construire une centrale nucléaire. Or, c'est dans les 5 ans qui viennent qu'il faut de l'énergie pour accompagner le développement des voitures électriques. Le nucléaire coûte aussi de plus en plus cher, avec les normes de sécurité après Fukushima, et puis les pertes de compétences. L'EPR de Flamanville, c'était initialement 3 milliards d'euros pour une mise en service en 2012. La facture en est aujourd'hui à 19 milliards, 6 fois plus, et il ne fonctionne toujours pas 10 ans plus tard. Le coût de l'enfouissement des déchets est aussi exorbitant. Le stockage sous terre à Bure, dans la Meuse, est évalué par ses promoteurs à 35 milliards d'euros minimum. Tout ça, ça se retrouvera aussi dans les prix de l'électricité.
Bah, y a donc des choses à dire aussi sur le nucléaire.
Bah oui, mais qu'importe. Et, oui. Ou même plutôt justement, puisque ce que nous avons vu ces dernières semaines, c'est qu'il valait mieux dans cette pré-campagne présidentielle provoquer les débats que les subir. Emmanuel Macron relance le nucléaire et il sait, il recherche même l'effet que cela va provoquer.
Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, je vous le rappelle, Alba Ventura reçoit aujourd'hui le petit Didier alias Joestar. Le rappeur-chanteur sort un livre récit consacré à sa jeunesse en Seine-Saint-Denis. Un entretien confession à retrouver dans moins de 30 minutes.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 7h14, le prix des carburants à la pompe ne cesse d'augmenter. Quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre pour faire baisser les tarifs? Nous allons faire le point avec vous, Christophe Bourou, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
De notre brigade RTL, hier sur notre antenne, Anne Hidalgo, face à Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes, a défendu l'idée de baisser la TVA sur les carburants de 20 à 5,5%.
Oui, ce qui aurait un effet immédiat avec une baisse de l'ordre de 10 à 20 centimes sur le litre d'essence. Seulement deux bémols pour le gouvernement. Un, c'est une entrée fiscale en moins, 8 milliards d'euros. Deux, cela inciterait les Français mais à continuer à rouler avec des véhicules diesel et essence, autrement dit, en contradiction avec les objectifs de réduction de CO2.
C'est très clair. Autre option, Christophe, l'extension du chèque énergie.
Alors, vous le savez, en décembre, près de 6 millions de familles recevront 100 euros pour payer le gaz et l'électricité. L'idée serait de donner également un coup de pouce pour pouvoir faire son plein d'essence. Certains parlementaires ont même émis l'idée d'un ticket carburant sur le modèle du ticket restaurant. Mmh. Enfin, autre levier possible, s'inspirer de la région Hauts-de-France et son aide au transport de 20 euros par mois pour les automobilistes les plus modestes dont le trajet domicile-travail est supérieur à 20 km.
Le gouvernement réfléchit aussi à prolonger les aides pour l'achat de voitures propres.
Oui, alors c'est-à-dire maintenir un bonus de 6 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou encore garder l'aide aux hybrides rechargeables, actuellement 2 000 euros, mais qui doit disparaître le 1er janvier prochain.
Est-ce que nos voisins européens ont déjà pensé à des solutions pour baisser le prix du carburant ?
Alors non, pour le moment, pas de prise de décision forte sur le carburant, même si l'Espagne s'interroge sur une baisse de la TVA sur les carburants après l'avoir déjà réalisée pour les factures d'électricité.
Merci beaucoup Christophe Bourou, notre spécialiste automobile à la rédaction d'RTL, et je vous renvoie aussi à notre rendez-vous pris avec François Langlais ce matin, qui reviendra sur ce qu'il a lui-même appelé les marchés de l'énergie qui sont en folie absolument généralisée et dans le monde entier. Dans un instant, c'est un document RTL que nous vous proposons. Pour la première fois, le procureur de Haute-Saône s'exprime sur l'affaire d'Aval. Il s'est confié à Alice Moreno et on découvre cet entretien dans quelques instants.
RTL Matin, Yves Calvi.
Document RTL.
Il est 7h19. Il y a 4 ans, fin octobre 2017, des enquêteurs découvraient le corps d'Alexia Daval dans un bois de Haute-Saône. Son mari, Jonathan, apparaissait alors effondré. On se souvient de ses larmes face caméra lors de la marche blanche en hommage à sa femme.
Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Nous savions puiser dans nos regards, nos échanges, l'énergie nécessaire pour aller plus loin ensemble. La force de notre couple nous faisait nous dépasser. Cette plénitude me manquera terriblement.
Jonathan, le veuf éploré, est en fait le meurtrier d'Alexia. Il l'a étranglé, frappé et a trahi en fait tout son entourage. Pour la première fois, le procureur qui a dirigé l'enquête nous raconte les coulisses des investigations. Emmanuel Dupic est procureur de la République de Haute-Saône, qui était aussi l'avocat général au procès de Jonathan Daval. Un entretien mené par Alice Moreno a retrouvé en longueur dans notre podcast Les Voix du Crime. Le procureur se souvient parfaitement du jour de la disparition d'Alexia.
Alors je m'en souviens très très bien, parce que bien sûr c'est une affaire qui a marqué mon parcours professionnel. Nous sommes un samedi, le 28 octobre, je suis en famille chez moi, on est au moment du déjeuner, et je vais recevoir un appel des gendarmes de Grès, qui ont reçu il y a une heure le témoignage du mari Jonathan Daval, indiquant que sa femme était partie en début de matinée réaliser un footing dans les bois à proximité de la ville de Grès, et qu'il n'avait pas retrouvé, et qu'il avait également envoyé des messages et qu'il n'y avait pas de réponse. À ce moment-là, vous avez quand même deux hypothèses. C'est soit elle a quitté le domicile familial, hein, ce qui peut arriver, une séparation, ou alors il s'est passé quelque chose de grave. Et donc c'est assez rare, mais compte tenu du contexte particulier, je demande aux gendarmes de réentendre beaucoup plus longuement à 17h précisément, Jonathan Daval, donc une deuxième fois, sur les circonstances de la disparition. C'est un moment important parce que, tout d'abord, on va constater sur son corps des petites traces qui ressemblent à des griffures. J'imagine que ça peut intriguer quand même.
Et finalement, après deux jours de recherche dans la région, les gendarmes retrouvent un corps dans un bois, au bout d'un chemin forestier.
On retrouve une jeune femme, effectivement, qui a été partiellement, dont le corps a été partiellement brûlé, donc ça c'est un élément important pour l'enquête, hein, qui présente des traces probablement de strangulation au niveau du cou, et qui présente également un visage extrêmement tuméfié, c'est-à-dire qu'elle a reçu des coups importants sur le visage. Les professionnels du crime vous diront qu'effectivement ce sont des manifestations plutôt d'un meurtrier qui se situe dans la sphère familiale, c'est-à-dire un meurtrier qui connaît sa victime, parce qu'il y a un grand acharnement. Ça se distingue par exemple du crime de sang avec un couteau ou à coup de fusil ou de pistolet, qui est une mort bon, déjà beaucoup moins douloureuse, mais surtout qui est beaucoup plus rapide et qui est moins empreinte parfois d'une tension, en tout cas d'une relation entre les protagonistes.
Et c'est vous aussi qui annoncez la découverte du corps à la famille.
Un moment qui est extrêmement rare et très difficile, où je dois à la fois annoncer à la famille qu'on a découvert un corps carbonisé, qui est probablement celui de leur fille, et puis, au même moment, indiquer la découverte de ce corps à un suspect, Jonathan Daval.
Comment réagit-il, lui, à l'annonce de la découverte du corps ?
Jonathan Daval est complètement affecté. J'ai le souvenir de le voir pleurer. S'est penché, je crois même, sur Isabelle Fouillot, elle-même, dans une intense émotion. Donc c'est quelque chose qui est très déstabilisant. Et lorsque la scène de crime parlera, tout confondra pour incriminer Jonathan Daval.
C'est donc 3 mois après la découverte du corps d'Alexia que Jonathan passe aux aveux. Comment se déroule son audition ?
En tout cas, c'est une audition, une garde à vue qui va être difficile, puisqu'il va être entendu à 5 reprises, durant 48 heures. Et c'est seulement à la fin, à la 5e audition, qu'il va enfin reconnaître les faits.
Les aveux, ils ressemblent à quoi ? Est-ce que ce sont des aveux très brefs, circonstanciés ? Est-ce qu'ils donnent un petit peu d'éléments sur la raison pour laquelle il est passé à l'acte ?
Non, ça fait partie des catégories des aveux qu'on obtient parce qu'on est acculé. On est dos au mur. C'est également, quelque part, annoncer à ses beaux-parents qu'il est l'auteur de la tragédie.
Emmanuel Dupic, procureur de la République de Haute-Saône, au micro d'Alice Moreno, a retrouvé en longueur dans notre podcast Les Voix du Crime.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h23, c'est l'heure de découvrir notre pépite musicale du jour. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On vous écoute.
Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce gouvernement ? Mickey, Premier ministre, Tintin à la police, Picsou aux finances, Zorro à la justice et Coluche, ministre de la rigolade.
Il n'y a que 2 solutions. C'est soit Henri Salvador, soit peut-être...
Ah, c'est Pierre Delanoë qui a imaginé ça.
Ah, très bien.
Il y avait aussi Tarzan à l'écologie, la parité n'était pas respectée. Ce gouvernement a été imaginé donc par Delanoë,
oui,
en 1980. C'est pas pour Salvador, on s'approchait de la fin du septennat de Giscard, crise économique, un peu de ras-le-bol pour certains.
Ça y est.
Et donc voilà comment Delanoë a eu l'idée de ce texte faussement naïf, et c'est Gérard Lenormand,
oui,
voilà, qui l'a mis en musique et interprété. C'est devenu Si j'étais président, Oscar de la SACEM hein, à l'époque. Et dernier grand succès populaire de Gérard Lenormand, il y a pile 10 ans, on a découvert une version flamenco réussi de Si j'étais président, si, interprété par Chico et les Gypsies en compagnie de Gérard Lenormand. C'est notre pépite du jour et la chanson d'actualité.
Si fuera presidente.
Si fuera presidente. Si de nuestro país fuera el presidente, siempre fiesta y canción para toda la gente, todo amor. Si que te gustaría solo guitar y voz, a cantar y bailar, ya no vería más. Si fuera presidente, una mujer llorar, ni un niño triste, solo paz y amor. Sí que te gustaría, sin armas, sin maldad, una fraternidad.
Si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en verre et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique, on ferait des trucs marrants.
C'est pas mal, ça marche toujours. Cette
mais
version
oui.
des Gypsies est à retrouver dans l'album à succès de Gérard Lenormand, duo de mes chansons qui était sorti en 2011. Ça file le sourire.
Ça met de bonne humeur. Mais oui.
Hein, voilà. Et en cet automne 2021, Gérard Lenormand est de retour avec un nouvel album, Le Goût du Bonheur, Le Goût du Bonheur, qui sort demain. Il s'agit de son premier album de chansons originales depuis 21 ans.
Eh bien, Gérard Lenormand sera notre invité tout à l'heure à 9h dans Laissez-vous tenter pour nous présenter cet album en avant-première. Merci beaucoup, Anthony. On se dit à demain. Et puis, je rappelle qu'on peut réécouter à tout moment vos pépites musicales sur l'appli RTL. Dans un instant, les grosses têtes, la météo de Louis Baudin. Allez, olé, olé pour la météo.
RTL Matin.
Rendez-vous avec nos grosses têtes, vous le savez, de 15h30 à 18h sur RTL. Et ce matin, c'est le dernier James Bond avec Daniel Craig qui les amuse.
Le grand suspense, c'est qui sera le prochain James Bond?
Et c'est toi qui sais que ça va être.
Voilà.
C'est Omar Sy. Parce que moi, j'aimais bien Daniel Craig, parce que souvent, on y a dit que j'y ressemblais. À chaque fois qu'il y a un... Bon, maintenant, moins avec la barbe. Mais chaque fois qu'il y en a eu un qui sortait, on dit « Ah, c'est James Bond !» Mais non,
Ah bah, peut-être vous pouvez la remplacer. Faites-le voir. My name is Jean. Janssen.
My name is Jean. J'enseigne.
Non, ça marche pas. Non, mais voilà. C'est vrai qu'un James Bond ch'ti, ça serait une idée.
Mais oui, puis ça serait très fédérateur. Vous savez, le ch'ti, ça se vend bien. Regardez, Danny Boone, son film, tout ça. Ça attire beaucoup de monde. Alors, un James Bond ch'ti, imaginez. Hey, la ch'ti poupée.
Le James Bond gay, moins, vous voyez.
Alors, ça sera moderne.
Oh, il est beau, le serveur, hein.
Rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Ruquier qui reçoit Paul Elkarat, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Bernard Mabille, Caroline Diamant et Julie Leclerc. Et puis l'invité de l'émission sera aujourd'hui la ministre Marlène Schiappa. Louis Bodin.
Oui.
Ben notre météo qui est plutôt souriante.
Ben exactement. Voilà. Et nous commençons une longue période de temps calme et plutôt ensoleillé. Alors c'est vrai qu'à cette époque de l'année, on a toujours ici ou là quelques nuages bas qui traînent le matin. C'est le cas en ce moment dans le nord-est. C'est le cas également près de la Manche. Mais au fil des heures, tout ça va se dissiper. J'ai quelques brouillards également à Saint-Quentin, Charleville-Mézières ou encore du côté de Brive, mais tout ça va disparaître cet après-midi. Le soleil s'imposera, pas forcément un ciel tout bleu, mais très agréable, belle luminosité, sauf près de la Manche, où là on aura quelques nuages supplémentaires. Allez voir quelques gouttes de pluie, mais c'est pas sûr du tout. Il restera un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lion. Et puis les températures, bon, bah, faut s'y faire hein, quand même, on avance. Hein. Fini les 20 degrés dans la moitié nord, 15 à 18 degrés, pas plus, 18 à 20 degrés dans le sud et 20 à 24 degrés encore près de la Méditerranée.
Il nous fait voir la vie en bleu, il est 7h30. Merci Louis Bodin.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 7 octobre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et si on commençait par une bonne nouvelle, le taux de chômage devrait tomber ce trimestre à son plus bas niveau depuis 2008. 7,6% de la population selon l'INSEE. C'est quasiment un point de moins qu'en 2019 avant la pandémie, Anaïs Bouissou.
L'activité repart et les emplois qui vont avec. L'INSEE souligne que ce rebond de l'emploi concerne tout le monde, toutes les classes d'âge et en particulier les plus jeunes, les 15-24 ans. 7,6% de taux de chômage, c'est un chiffre d'autant plus remarquable quand même qu'une crise sanitaire est passée par là. Crise qui n'empêchera pas la création de 220 000 emplois nets entre fin 2019 et fin 2021, toujours d'après l'INSEE. La fin de l'année devrait rester stable sur le front de l'emploi, ce qui permet d'espérer de s'approcher un peu plus de l'objectif d'Emmanuel Macron de 7% de chômage en France en 2022.
Anaïs Bouissou. Une information RTL, plus d'un million de ménages vont pouvoir bénéficier du crédit d'impôt en temps réel pour leurs salariés à domicile. Concrètement parlant, cela signifie qu'il n'y aura plus besoin d'avancer l'argent. Ce sera valable à partir du 1er janvier prochain pour le personnel de ménage ou le jardinier, mais pas pour la garde d'enfants.
Ce sera bien entendu l'image du jour, hein, le cercueil de Bernard Tapie au centre de la pelouse du stade Vélodrome.
Les négociations se sont prolongées tard hier soir et finalement les Marseillais vont pouvoir se recueillir à l'intérieur du stade à partir de 17h sous les images de la mythique finale de Ligue des Champions en 93. Le cercueil du boss devrait être recouvert du drapeau tricolore, mais aussi d'un drapeau aux couleurs de l'OM. Des couleurs portées, des pieds à la tête par Bernard, fan absolu. Il sera évidemment au Vélodrome cet après-midi. En fait, il ne l'a pas quitté depuis 4 jours.
Moi, je suis là depuis dimanche. Depuis l'annonce de la mort de Bernard, j'étais là toute la journée. Nous, on est Marseillais de cœur et Tapie a toujours dit, avant qu'il meure, ça sera ma ville de cœur. C'est beau. C'est un honneur.
Et vous irez à la cérémonie vendredi, oui, à la Major?
À la Major, oui. J'irai, je prends le 83, il me laisse juste à côté. Hein. Mais bon, après, je ne sais pas, avec tout le monde qu'il va avoir, je ne sais pas si on pourra tous rentrer.
Ce supporter marseillais au micro RTL d'Étienne Baudu. Le pass sanitaire pourrait être levé prochainement, au moins dans certains départements. Il en sera question aujourd'hui en Conseil de défense. De fait, l'épidémie recule de façon constante depuis la mi-août. Le taux d'incidence est tombé en dessous de 50 au niveau national. Il est même en dessous de 15 dans le Finistère, l'Indre ou les Vosges. Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale. Désormais, une troisième dose est recommandée pour les soignants et pour l'entourage des personnes immunodéprimées. Jusqu'ici, elle était réservée aux personnes personnes âgées et à risque. À la fin, est-ce que ce sera troisième dose pour tout le monde, Odile Pouget ?
Alors pour l'instant, la Haute Autorité de Santé estime que la mesure est encore prématurée. D'abord parce que la situation sanitaire s'est nettement améliorée. Ensuite, parce qu'on manque de données sur l'intérêt d'une dose de rappel chez les plus jeunes. Les seules études en vie réelle qui prouvent une réduction des risques de formes graves avec cette troisième dose portent sur les plus de 60 ans. Mais la HAS ne ferme pas pour autant la porte. Elle assure qu'un rappel pour tous les adultes deviendra probablement nécessaire dans les mois qui viennent. La priorité, pour l'instant, c'est d'augmenter la couverture vaccinale chez les plus vulnérables. Ainsi, 16% des plus de 80 ans n'ont toujours pas reçu leurs deux doses.
Odile Pouget, une avancée historique. L'Organisation mondiale de la santé donne son feu vert au premier vaccin antipaludique chez les enfants. Chaque année, le paludisme tue plus de 260 000 petits de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Et puis contre le palu, le Covid, mais aussi le sida ou Alzheimer, l'Institut Pasteur lance aujourd'hui la 15e édition de son Pasteur Don avec une cinquantaine de médias, dont RTL. Rendez-vous sur pasteurdon.fr ou au 3620 ou par SMS au 92 112. Vers un allongement du délai pour avorter de 12 à 14 semaines. Une loi sera inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée d'ici fin novembre, annonce de Christophe Castaner dans Le Parisien.
Il est 7h34, le football maintenant, c'est l'heure des retrouvailles pour la France et la Belgique.
Les Bleus avaient éliminé les Diables Rouges en demi-finale du Mondial 2018, on s'en souvient. Ce soir, c'est une demi-finale de Ligue des Nations qui les réunit et les Belges ont forcément des envies de revanche.
Le match a une saveur particulière, bien sûr que nous avons encore sous son mémoire 2018 et cette grande déception que nous avons eue contre, en demi-finale contre la France. Et je dirais que l'heure de la revanche a sonné.
C'est toujours très bon enfant, on est des vrais supporters, on a toujours une ambiance super. Pour ma part, moi, il n'y a pas de rivalité avec eux.
Allez, je vais me mouiller, je vois bien 2-1 pour nous.
Avec un goal de Eden Hazard et de Kevin De Bruyne. Et du côté français, on va dire allez, un petit goal de Mbappé, mais qui sera insuffisant pour gagner puisque nous en aurons marqué deux.
Ses supporters belges au micro RTL de Caroline N. Coup d'envoi de ce match à 20h45. C'est à suivre en intégralité dans RTL Foot spécial dès 20h40 avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Le vainqueur de ce match affrontera en finale l'Espagne qui l'a emporté 2-1 sur l'Italie. Et puis la Ligue a infligé de nouvelles sanctions après les violences lors des matchs Lens-Lille et Angers-Marseille. Un point de retrait avec sursis pour tout le monde, sauf Angers qui écope de deux matchs à huis clos.
Le tout info nous était proposé par Isabelle Choquet. On vous retrouve à 8h40 comme chaque jour pour la face cachée de la Une.
Et avant Belgique-France, la face cachée de Kylian.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h37, l'Angle Éco avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
C'est le délire complet hein, sur les marchés d'énergie, celui du gaz en particulier.
À l'ouverture des marchés hier, le cours du gaz a pris presque 40% en quelques instants.
C'est pas possible.
Pour arriver à un niveau 8 fois supérieur à celui de février 2021. La folie est telle que les navires chargés de gaz naturel liquéfié qui circulent sur les océans de la planète, ils voient leur cargaison changer plusieurs fois de propriétaire lors d'un même trajet, à cause des enchères permanentes sur les prix. Le cours de la tonne de charbon dépasse, lui, les $300, niveau qui enfonce le précédent record de 2008. En fait, en réalité, tous les marchés de l'énergie sont interconnectés.
Oui.
Parce que les clients, industriels ou bien fournisseurs d'électricité, se reportent en effet du gaz au charbon ou au pétrole en fonction de ce qu'ils peuvent trouver. Parce que tout le monde tire en même temps sur les mêmes ressources.
Alors, est-ce qu'on peut parler de crise mondiale ?
Oui. Oui. En Chine, les pénuries d'énergie sont telles que de nombreuses usines sont à l'arrêt. La croissance pourrait, à cause de ça notamment, cette année passer en dessous de 4%. Pour la Chine, c'est quasiment la récession. Hein.
Oui.
Au point que le vice-premier ministre chinois a donné ordre de sécuriser l'approvisionnement sur les marchés mondiaux, quel que soit le prix payé. La crise est d'autant plus forte que, en Chine, le prix de l'électricité est bloqué. Du coup, la demande ne faiblit pas, malgré les tensions.
Mmh.
En Inde, au début de la semaine, cette semaine, il restait seulement 4 jours de stock de charbon pour faire fonctionner les quelques 130 centrales thermiques qui produisent les 2/3 de l'électricité du pays. Aux États-Unis, hier, l'administration évoquait l'utilisation des stocks stratégiques de pétrole pour faire baisser les prix de l'essence. Elle évoquait aussi l'interdiction possible des exportations d'or noir. En fait, il n'y a guère que la Russie qui souhaite épargner. Bon, c'est elle-même le premier producteur de gaz. Hier, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à stabiliser les prix du gaz en augmentant sa production. Quelques mots. Quelques mots qui ont permis au prix de se détendre de façon spectaculaire et au tsar russe de se poser comme le recours face à la crise, en Europe au moins.
Merci Vladimir. Alors, l'Europe justement, que fait-elle ?
Comme sur tous les sujets, elle est divisée. La Hongrie met en cause la transition énergétique vers les renouvelables et les taxes sur le carbone. Le Green Deal, vous savez, ce grand programme européen pour décarboner l'économie, justement organisé par la Commission, est accusé par d'autres États d'avoir fait grimper les prix en organisant la pénurie d'énergie fossile alors que les renouvelables ne suffisent pas. C'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Hein. La France, l'Espagne et quelques autres plaident pour une réforme du marché de l'énergie afin de déconnecter les prix intérieurs des prix mondiaux. Mais, comme d'habitude, l'Allemagne et les pays du Nord freinent en expliquant qu'il s'agit en fait d'une crise passagère. Bon, la bonne solution, ça serait d'augmenter les capacités de stockage en Europe. Hein. Ça permet de lisser les fluctuations, mais ça ne vaut évidemment que pour le futur. Quant au Royaume-Uni, il n'est pas mieux loti, il n'a pas de stock, les foyers se chauffent au gaz. Si l'hiver est rude, ça va faire glagla chez les grands bretons, préviennent les experts.
Bah oui, c'est bien le Brexit. Alors, pour nous alors, quelles vont être les conséquences finalement?
Des factures plus élevées, ça on le voit déjà, ouais. Mais aussi, on ne le réalise pas encore, des prix plus élevés pour nombre de biens et de services. C'est une espèce de petit choc pétrolier qu'on connaît, hein. Alors si ce n'est qu'il n'y a pas que le pétrole. Le Financial Times nous apprend par exemple que Saint-Gobain, c'est un industriel français des matériaux, a révisé sa facture d'énergie pour l'année en cours en la faisant passer d'1,1 milliard à 1 milliard et demi, sur coût de presque 40%. Il sera évidemment facturé aux clients, sous la forme de hausse des prix. La crise de l'énergie est un facteur de plus qui va contribuer au redémarrage de l'inflation.
Passionnant. Merci beaucoup François Langlais. Rendez-vous sur RTL.fr pour l'épisode 5 de la saison 3 de l'Angleco intitulé « La crise de l'énergie provoque-t-elle un revirement vers le nucléaire ?» Réponse dans votre podcast gratuit et inédit qui vient d'être mis en ligne. Il est 7h41. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Didier Morville, alias Joey Star, vous savez le rappeur du groupe NTM, il se confie sur son enfance dans son livre « Le petit Didier », c'est aux éditions Robert Laffont.
A tout de suite avec Joey Star sur l'antenne d'RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Joey Star.
Bonjour Joey Star.
Bonjour.
Et merci d'être là sur RTL ce matin. Le petit Didier, c'est donc le livre que vous publiez aux éditions Robert Laffont, c'est votre vie, c'est votre enfance à Saint-Denis. Joey Star, est-ce que vous savez quel est le mot que vous avez le plus employé dans ce livre ?
Je pourrais vous dire le mot que j'ai le plus employé ce matin, mais là, dans ce livre, non, comme ça, non.
Ennui.
Ah, ah ouais, à ce moment-là. Eh bien, ouais, non, mais c'est vrai que... Mais c'est pas très vendeur que de raconter que je raconte mon ennui.
Mais c'est très poétique, je tiens à le dire.
Ah bon, d'accord, ok.
C'est un livre très poétique.
Bah ouais, je crois que j'ai appris très tôt à suspendre le temps, c'est-à-dire à combattre l'ennui au possible. Donc, ouais, je dois pas trop avoir de mal à le raconter, je pense.
Mais vous étiez donc un enfant sage qui tuait l'ennui toute la journée. C'est ça que vous voulez décrire de votre enfance ? Une monotonie ?
J'étais sage parce que j'étais très cloîtré, dans une ambiance très taiseuse. Donc j'avais un peu le comportement qui correspondait à ça. Et puis que je crois que je faisais marcher pas mal mon imagination aussi. Enfin, je la laissais dériver. Voilà. C'est ça qu'on convertit en sage aujourd'hui. Mais dès que la fenêtre s'est ouverte... voilà, c'était l'explosion.
C'est que ça, vous cherchez à vous échapper sans cesse. La fenêtre de votre appartement, c'est votre lucarne. On va y revenir, mais le personnage central de votre vie, de ce livre, c'est votre père, Jean. Alors vous dites « monsieur » en parlant de lui. C'est quoi ? C'est pour marquer la distance qu'il pouvait y avoir entre vous deux ?
Non, c'est une façon de s'exprimer quand on a quelque chose en tête, un grief, ou enfin plus dans ce sens-là, quoi. On dit monsieur, on met la distance. Mmh. Je crois que c'est plutôt ça, quoi. Mais je l'appelais pas monsieur, non. C'était pas un camp militaire non plus.
Vous parlez de l'ambiance quand même très austère du couple Jean Morville, Didier Morville. Didier Morville, c'est votre nom, Joey Star. Ambiance très austère. Alors je le disais, vous écrivez de manière très poétique et il y a cette phrase « L'air pèse lourd entre nos murs ». Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Ben, ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, quoi, on est dans une ambiance très taiseuse, quoi. Chaque parole prononcée, il y a pas réellement d'affect. Donc tout ce qui fait que chaque dire est décuplé de manière très, enfin. Je sais jamais ce qui va tomber, quoi. Quand mon père entame une conversation, on sait jamais où elle va aller et les proportions que vont prendre. Donc effectivement, ça rend l'air très lourd, quoi.
C'est ça, on a le sentiment qu'il vous protège, mais qu'il ne sait pas faire. Il veut que vous soyez toujours bien habillé lorsque vous sortez. Il vous apprend les règles de vie. Il vous apprend à être un fin gourmet. On mange pas des coquillettes au jambon chez vous. On mange du coq au vin. Et en même temps, ouais,
enfin,
il donne
aussi... On mange du coq au vin de temps en temps, hein. C'est pas non plus...
De temps en temps. Ouais. Et il donne aussi l'impression que bah, vous êtes là, mais sans être là.
Bah, le truc, c'est que... Enfin, moi, j'ai appris ça en ayant des enfants, quoi. On devient le second rôle de sa vie, quelque part. Que lui, ça ne l'intéressait pas, quoi, en fait. Voilà, lui, il voulait être Jean Morville jusqu'au bout. Et il voulait que je sois aussi un Jean Morville, quoi.
Mais comment ça? Il voulait que vous soyez une sorte de clone?
Il voulait, me formater comme... exactement comme lui, quoi. Voilà.
Et c'est pourquoi l'idée.
Parce que d'après lui, sa trajectoire était la bonne et qu'il n'y en avait pas d'autre pour nous. Voilà. Donc il fallait que je sois plus acclimaté que qui que ce soit, quoi. Et je dis bien acclimaté.
Acclimaté, c'est dompté pour vous ?
Ah bah c'est... Ouais, c'est ne pas faire de bruit. Enfin, c'est ne pas faire de bruit. C'est rentrer, c'est être dans le moule, tout simplement, quoi.
Dans un cadre. Alors il y a une grande absente dans ce livre, c'est votre maman. On ne vous dit jamais où elle est.
On n'en parle pas surtout. Il y a même pas de. On me dit pas où elle est. C'est que un jour pour avoir la paix par rapport à mes questions qui sont complètement naturelles quoi. Mon père préfère me dire écoute elle est plus là, elle est morte voilà. Donc voilà et puis voilà j'ai dû composer avec ça.
Et vous n'avez pas posé plus de questions.
Mon père, comme je le disais, ne répondait que quand ça l'arrangeait ou à l'humeur. Donc non, enfin, on apprend à vivre avec ça. Donc du coup, voilà quoi. On sait quand les mots qui ont été prononcés sont les derniers à propos d'un sujet. Et donc il ne faut pas insister.
Mais cette maman, elle est bien vivante. Et d'ailleurs,
oui,
vous la retrouvez.
Oui. Je la côtoie aujourd'hui, oui. Oui, tout à fait. Je la retrouve bien après, ouais. Ouais, ça c'est un autre livre. Là, pour l'instant, on est dans ce qu'on appelle l'ère Petit Didier, c'est-à-dire que qui s'arrête quand je n'ai plus l'impression d'être petit, justement, quoi. Voilà.
Là maintenant, vous avez vraiment le sentiment d'être un adulte.
Oh ouais, j'ai le corps d'un adulte, j'ai l'humeur d'un adulte le plus souvent, mais sinon, je suis encore en construction à 54 ans. C'est-à-dire que je pense que il peut arriver plein de trucs dans la vie d'un enfant. S'il est accompagné, ça ne sera pas forcément des blessures constantes, quoi. Moi, je me suis fait tout seul, on va dire, après coup. Donc voilà, quoi. Il y a encore plein de choses. Ce qui fait aussi que peut-être à l'heure d'aujourd'hui, je continue à m'émerveiller sur plein de choses. J'ai encore quelques côtés candides avec lesquels je compose et qui m'amusent beaucoup d'ailleurs.
Mais dites-moi, Joey Starr, c'est quand même votre père qui vous a initié à la musique ?
Ouais, enfin, je dirais sans le vouloir, quoi. Lui, ouais. Il était plus dans son mood, dans son humeur à lui. Voilà, ouais, mais c'est lui. Je pense que de toute façon, comme pour moi, la musique pour lui, c'était une manière de s'évader, quoi. C'est-à-dire, je rentre le soir, je mets un peu de musique traditionnelle antillaise ou autre, qui va le faire voyager, un peu comme, ce qui était la musique pour nous à l'époque. C'est-à-dire, nous, on écoutait pas de la musique pour être tendance, on écoutait de la musique parce que ça nous faisait du bien. La musique nous emmenait ailleurs.
Vous pensiez à ce moment-là, même adolescent, vous alliez réussir dans la musique ?
Ah non, je me suis jamais projeté du tout. Même quand j'ai signé chez Sony la première fois, je me projetais pas non plus. Hein.
Dans ce livre, vous décrivez ce que c'est la vie dans une cité, les changements. Vous voyez les travaux, les immeubles sortir de terre. Vous écrivez, ce qui est beau pour un gosse qui grandit en cité, c'est que d'un endroit à un autre, il y a de nouvelles atmosphères. Tu vas sur le banc, il y a une ambiance. Tu vas dans la cabane, il y a une autre ambiance. Au café, encore une autre ambiance. À chaque entrée d'immeuble, il y a une ambiance.
Ouais, tout dépend de l'heure. C'est-à-dire que le même endroit, selon l'heure, peut être tout à fait différent.
Et vous aimez la vie de la cité ?
Ouais, parce que c'était une époque où Chirac parlait aussi des odeurs et des bruits, mais les odeurs et des bruits, c'était ça la vie, justement. Et puis surtout, c'est un carrefour, quoi. C'était un vrai carrefour ethnique. Enfin voilà, quoi. On n'avait pas ce truc de communautés différentes, machin. On était très mélangés tous, quoi. On est arrivés, on était tout frais. Pour beaucoup découvrir la France ou autre, et voilà quoi, cette espèce de symbiose marchait assez bien. Il y avait plein de choses à redire, bien sûr.
Et ça marche moins bien aujourd'hui.
C'est plus compliqué.
Zemmour, c'est un phénomène qui vous inquiète ?
Moi, c'est pas Zemmour qui m'inquiète, c'est le relais qui est fait alors que le mec n'a aucun programme. Il fait partie de ces espèces de stigmates de l'époque, pour moi, qui me donnent l'impression, quand j'étais plus jeune, quand je lisais de l'anticipation, ben on y est. On y est là, il fait partie de ces stigmates-là au même titre que, je sais pas, Trump, le climat, les propos de Zemmour aussi. Enfin voilà, ouais, effectivement. Ouais. Mais sinon, je pense qu'à un moment donné, les Français vont trancher, quoi, et que Zemmour, c'est, je sais pas, c'est un fantasme bon marché pour une certaine partie des gens.
Merci Joe Star. Je rappelle votre livre, ça s'appelle Le Petit Didier et c'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup.
Merci. Très lourd à la maison avec son père Jean Morville. C'est donc le cœur du livre de Joe Star, Le Petit Didier, aux éditions Robert Laffont. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Et dans un instant, c'est l'œil de Philippe Cavrivière qui nous revient.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Il est 7h53, bonjour Philippe.
Tout à fait, bonjour.
Oui, tout à fait, on commence avec ce sondage. Qui place pour la première fois Éric Zemmour au second tour de l'élection présidentielle ?
Oh, bravo Morico ! On se rapproche de l'Élysée, hein. Ça sent l'écurie. J'ai pas trop aimé les critiques de Joe Star sur Éric Zemmour. Je lui ai pas dit parce que je l'ai pas vu et que j'ai peur, mais... Alors, mais on n'est pas les seuls à être contents. On l'a vu ce matin sur la matinale de CNews. Les cernes étaient marquées, les yeux creusés, les flûtes de champagne traînaient sur la table de Pascal Pro. Oh là, c'était Jean Messia avait encore sa cravate autour de la tête, Yvan Rioufol était plein de confettis, ça a bamboché toute la nuit. Alors notre Rico passe devant Marine, ce qui lui fait le plus plaisir c'est d'avoir pris bien sûr la place d'une bonne femme. Il est à 17, 5% par mois il prend. À ce rythme-là, il fera 62 au mois de mai. C'est quand même le comble pour un raciste de terminer avec un score de dictateur africain. Alors la leçon à tirer, c'est que dire du bien de Pétain en 2021, ça plaît.
Ça plaît, oui, c'est ça.
Testez-le en rendez-vous amoureux ou sur votre profil Tinder. J'aime les voyages, le sport, les randonnées et le maréchal Pétain. On ne sait pas, ça marche en tout cas. En tout cas, notre Rico Zemmour, bah, il a tué le game. Quoi. Plus personne ne peut le doubler par la droite, sinon il va finir dans le talus. Même Ducon-Gnan-Gnan, il passe pour le Che Guevara à côté.
Bon, alors justement, Nicolas Dupont-Aignan a lancé sa campagne au Cirque d'Hiver.
Oh, ça lui va bien, cette charmant, musique. C'est la campagne de Ducon-Gnan-Gnan qui est lancée. Pardon, est-ce, on peut lui enlever la musique de cirque parce qu'il fait assez clown comme ça, en fait, déjà. Ducon-Gnan-Gnan, il pense qu'il y a de la place pour un autre racisme. Avec... Marine Le Pen, on a un racisme soft, sans gluten, quasiment flower power. Avec notre Éric Zemmour, on a un racisme plus brut, plus authentique, dans son jus. Et Ducon-Gnan-Gnan, il propose un racisme centriste, un racisme raisonnable, le racisme de la maturité, un racisme éco-responsable. En France, on a 50 nuances de racisme. 50 Shades of Racism.
Oui. Alors, on parle maintenant de ce rapport accablant de la Commission Sauvé sur l'Église française. On compte 330 000 victimes de violences sexuelles depuis 1950.
Alors, par contre, je vous invite à mettre la ceinture, là, parce qu'il va y avoir 2-3 dodanes. Hein, c'est le sujet, ça va secouer un petit peu. Hein. 330 000 enfants en 70 ans, c'est beaucoup. On est choqué par ce chiffre. Certains prêtres enchaînaient les gamins. Et les sentiments, alors ? C'est pas en enchaînant les conquêtes, en papillonnant, qu'on va trouver l'âme sœur ? Alors, on a appris des choses avec ce terrible rapport. Déjà que le Vatican et Lourdes passent devant Marrakech et Pattaya pour les destinations de tourisme sexuel.
Bien sûr, oui. Alors, ne faisons pas de généralité. Il y a une immense majorité de prêtres formidables. Vous avez été au catéchisme.
Tout à fait.
Bon, bah, et vous n'avez jamais rien arrivé.
Jamais. Bon. Pas un bisou. Rien. Nada. C'est limite vexant. Il n'y en avait que pour le petit Maxence. Le chouchou. C'est lui qui recevait tous les câlins. Bah, résultat, il a fait une tentative de suicide il y a 2 ans. C'est le karma, hein, trop d'amour, moins d'amour, voilà. Alors la question qui revient souvent, et ça c'est intéressant, est-ce que c'est le centre aéré qui rend pédophile ou est-ce que c'est les pédophiles qui vont travailler au centre aéré ?
Bien une petite idée.
Hein, voilà. Alors il semblerait que ce soit la deuxième option. Oui. Alors moi ça m'arrange pas trop parce que j'ai longtemps été responsable mini-club au Club Med. Bon, j'ai été licencié à cause d'une sombre histoire de vidéo avec des enfants. C'était joli, pourtant ils couraient nus au ralenti sur une plage de Djerba avec un saxo derrière. Bon, quand c'est Kéchiche, tout le monde crie au génie. Quand c'est Cavrivière, ça tombe sous le coup de la loi. Ce snobisme parisien, ça me dégoûte. Bref, j'ai plus le droit d'approcher une école à moins de 300 mètres, mais j'ai payé ma dette à la société. Voilà. Je précise qu'on se moque des pédophiles, pas de l'Église, hein, surtout ni des victimes.
Il m'étonnerait en tout cas que je reçoive un commentaire. Je m'appelle Christian, je suis pédophile. L'amicale des pédophiles de Clermont-Ferrand et moi-même, nous sommes choqués par votre chronique sur RTL. Il n'y a pas de lobby pédophile. Ils sont très mal organisés, les gars. Ils ont un peu honte et ils ont raison. Hein. Alors souvent, c'est le prêtre qui agressait une personne innocente. Parfois, c'est l'inverse. Souvenez-vous, en 2007, ça s'est passé au Vatican. Jean-Marie Bigard s'approche de Benoît XVI. Et là, il lui met une grande frite à une claquette au niveau des parties génitales en hurlant « Chabite, le gars !» Alors, peu de temps après, Benoît XVI démissionnait. Je crois qu'il s'en est jamais remis. Hein, et Jean-Marie Bigard non plus. Alors, les prêtres ont abusé des enfants, c'est intolérable, mais ils ont aussi abusé de millions d'adultes. Rappelez-vous. J'ai envie de dire plus jamais ça.
C'est vrai que c'est un peu lourd.
Si vous avez acheté le disque, si vous êtes fait ken par les prêtres, n'hésitez pas à témoigner. Ouh, c'est douloureux.
Ouais, ça, on se prépare une sorte de bouffée d'angoisse. Bon, on vous dira pas qui a produit le disque.
Non, c'est de la maison, non.
Ah mince, c'est un secret familial, on peut pas en parler.
Aïe,
c'est
pas mince. Vous me direz ça.
Oui. Merci beaucoup Philippe Cavrivière, on vous retrouve sur le site rtl.fr. Notre météo c'est maintenant ? Ah bah voilà,
c'est
formidable.
C'est maintenant, d'accord. Oui,
bah, non, bah, je me laisse perturber par ce garçon,
bah, moi aussi,
je
d'ailleurs.
Sais plus où j'en suis. demain Philippe. Alors Louis, bon. Comment ça s'annonce ? Très agréablement
voilà,
aujourd'hui.
Exactement, très agréable. C'est vrai que ce matin on a encore quelques nuages dans le nord-est, hein, notamment Lorraine, Alsace, Franche-Comté, il y en a un peu dans le nord-ouest aussi, mais ailleurs déjà du soleil. Quelques brumes, brouillard à Saint-Quentin, Charleville-Mézières ou encore du côté de Brive, mais c'est limité, puis ça va vite disparaître et cet après-midi, donc du soleil pour tout le monde, sauf près de la Manche. C'est vrai qu'entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, on aura un peu plus de nuages, voire quelques gouttes de pluie, et puis ailleurs, du soleil. Il restera un peu de Mistral et de Tramontane près de la Méditerranée. Puis côté température, bah c'est de plus en plus frais au fil des jours. Hein. Le soleil il est reparti dans l'hémisphère sud. Hein. Donc on a 2 degrés à Guéret, à Nevers, à Romorantin en ce moment. Oui, c'est froid. Et 15 à 18 degrés cet après-midi, pas plus dans la moitié nord. 18 à 20 degrés dans le sud. Et puis près de la Méditerranée, bon, encore 20 à 24 degrés. Mais ça y est, c'est fini les 25 degrés près de la Méditerranée.
Louis Bonin nous promet du beau. Voilà. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, comment économiser de l'argent ? À la pompe, c'est l'une des grandes priorités du moment.
Oui, face à la flambée des prix du carburant, le super éthanol est plus attractif que jamais. 34 euros économisés par exemple sur un Paris-Marseille. Il a été le procureur qui a fait avouer Jonathan Daval après des mois de mensonges. RTL a recueilli les confidences d'Emmanuel Dupic qui lui aussi, face à la duplicité de cet homme, a dû faire semblant de le croire. Peut-on faire confiance aux sondages ? Comment sont-ils réalisés ? Savez-vous qu'on est payé d'ailleurs quand on est interrogé ? C'est l'enquête de la brigade RTL ce matin, avec en ligne de mire 2 sondages le même jour hier qui donnent des résultats complètement différents, notamment sur Éric Zemmour. Dans ce journal également, cette information RTL, la vie de plus d'1 million de Français qui emploient une aide ménagère par exemple, va se simplifier à partir de janvier avec les crédits d'impôt en temps réel. Et puis l'image du jour, ce sera ce soir à 17h, le cercueil de Bernard Tapie porté par des supporters marseillais au cœur du stade Vélodrome.
Si Payen signé son surf de l'info.
Ça débat, ça s'agite dans tous les sens pour la présidentielle et pendant ce temps-là, le président compte les points.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Il est donc présenté plus que jamais comme le carburant du pouvoir d'achat. Le super éthanol coûte aujourd'hui 68 centimes du litre. On est par exemple à 1,56€ pour comparaison pour le litre de sans-plomb 95. Ce biocarburant fait donc de plus en plus d'adeptes, à tel point que les constructeurs, certains en tout cas, investissent le marché. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
C'est le groupe américain Ford d'ailleurs qui est le plus actif en la matière.
Et oui, puisque la marque lance aujourd'hui en France toute une gamme de véhicules pour environ 150€ de plus qu'un modèle classique. Vous roulez à bord d'une voiture qui vous permet de réaliser de sérieuses économies, même si avec le super éthanol, vous consommez 20% en plus. Et bien rapidement, vous amortissez votre achat, selon Louis-Carl Vignon, le président de Ford France.
Vous faites un Paris-Marseille, vous allez économiser une 40aine d'euros, ou alors peut-être pour que ça parle plus encore, sur une distance annuelle de 10 000 km, chaque année entre 400 et 500 euros d'économie sur mon budget essence.
Cerise sur le capot, vous avez la gratuité de la carte grise price dans la quasi-totalité des départements. Et on trouve désormais ce carburant dans un tiers des stations en France. Résultat, des ventes qui s'envolent, plus 20% depuis le début de l'année. Alors pour le moment, Ford est la seule marque généraliste à se lancer. Les constructeurs français n'ont pas franchi le pas. Chez Renault, on parie plus sur le GPL avec Dacia, avec là aussi un carburant pas cher, 85 centimes d'euros le litre.
Et d'un mot, Christophe, si on n'a pas une voiture équipée, on peut le faire soi-même.
Alors, on peut faire installer un boîtier par un professionnel, j'insiste. Oui. Comptez 800 à 1000 euros. Investissement amorti au bout d'environ 13 000 km.
Merci beaucoup, Christophe Bourroux, spécialiste automobile à RTL. Et puis, à propos de cette flambée des prix du carburant, vous avez entendu hier soir sur RTL, Anne Hidalgo préciser sa pensée. Elle propose de passer la TVA de 20 à 5,5%, comme en fait un produit de première nécessité, ce qui permettrait d'économiser entre 10 et 20 centimes d'euros au litre. Mais la mesure coûterait 8 milliards d'euros à l'État.
Ce sera l'image du jour, le cercueil de Bernard Tapie en plein cœur du stade Vélodrome à Marseille.
Oui, et comme un symbole, le match entre l'Olympique de Marseille et le Milan AC de 1993 qui a fait de Bernard Tapie une légende va être diffusé devant le public dans les tribunes à partir de 17h. Et c'est à la 44e minute, après la tête de Basile Boli, que les supporters porteront donc le cercueil jusqu'au centre du terrain. Ce sera un grand moment pour Ahmed, grand admirateur de Bernard Tapie.
Monsieur Tapie, c'est un très grand entrepreneur. Tout ce qu'il a entrepris, il a réussi ou il y a mis du cœur. Et c'est le plus important, c'est un exemple pour tout le monde. C'est le boss. Moi, en ce moment, je me lance sur les réseaux pour prouver à tout le monde qu'on peut réussir à entreprendre, quel que soit le projet, en partant d'une idée, en étant déterminé. Et ce monsieur-là, pour moi, c'est le meilleur exemple. Je vais suivre son parcours d'entrepreneur et essayer de tout casser, quoi.
Je travaille et puis je pense à 16h, je vais venir pour un dernier au revoir.
Voilà donc Ahmed et Guylaine qui pourront être accueillis avec tous les Marseillais à partir de 17h ce soir au stade Vélodrome.
L'enfer du Bataclan à la cour d'assises a commencé à entendre hier les rescapés.
Oui, qui décrivent tous ces heures passées à la merci des terroristes qui abattaient les spectateurs au hasard. 90 personnes sont mortes ce soir-là. Edith, elle, a réussi avec d'autres à se cacher et son récit hier a glacé la cour d'assises, Cindy Hubert.
Edith a le même regard halluciné que tous les autres. « J'ai des images collées aux rétines », dit-elle, dans un éclat de rire qui a tout d'un sanglot. Quand les tirs commencent, Edith prend les escaliers, se cache en position fétale sous un strapontin. Un cri, un tir, une sonnerie de portable, un tir, une supplication, un tir. Je me dis « c'est pas possible, il nous tue pour de vrai ». Et là, le cerveau est un outil magique. Je me dis qu'il n'y a plus de lait pour ma fille et qu'il n'y en aura pas puisque je vais mourir. Je ne vais quand même pas envoyer un SMS à mon mari pour lui dire que je n'ai pas payé la facture de la cantine. Et puis très vite, est-ce que ça va faire mal? Je veux qu'on m'abatte, j'en peux plus. Ses cheveux rouges, ses bras pleins de tatous, ses bagues à chaque doigt. Edith tremble de tout son corps à la barre, danse de l'épouvante. Elle veut dire encore la mare de sang noir, ses corps à l'infini, son boulot qu'elle a dû quitter, son impression de devenir une mère fantôme. La police l'a sauvée ce soir-là, mais elle sourit. L'Edith d'avant est restée au Bataclan.
Compte rendu d'audience signé Cindy Hubert.
Et puis un témoignage rare ce matin sur RTL. L'homme qui a fait avouer Jonathan Daval après des mois de mensonges.
Oui, on se souvient des larmes de cet homme en 2017, de son numéro de veuf éploré devant les caméras alors qu'il avait quelques heures auparavant tué et partiellement brûlé le corps de sa femme Alexia. Emmanuel Dupic était procureur de Haute-Saône, il menait à l'époque cette enquête et lui aussi avait dû faire semblant de croire au récit de cet homme qui était pourtant dès le départ son principal suspect.
Je dois à la fois annoncer à la famille qu'on a découvert un corps carbonisé et puis indiquer la découverte de ce corps à un suspect. Jonathan Daval. J'ai le souvenir de le voir pleurer. Donc c'est quelque chose qui est très déstabilisant.
C'est donc 3 mois après la découverte du corps d'Alexia que Jonathan passe aux aveux. Comment se déroule son audition?
Une audition, une garde à vue qui va être difficile, puisqu'il va être entendu à 5 reprises. Et c'est seulement à la fin qu'il va enfin reconnaître les faits.
Les aveux, il donne un petit peu d'éléments sur la raison pour laquelle il est passé à l'acte?
Non. Non, ça fait partie des catégories des aveux qu'on obtient parce qu'on est acculé. C'est également annoncé à ses beaux-parents qu'il est l'auteur de la tragédie.
Le témoignage du procureur Emmanuel Dupic, document RTL d'Alice Moreno. Et vous retrouvez une émission complète dans les Voies du crime, disponible en podcast sur l'application RTL sur cette affaire Daval et disponible également sur les plateformes de téléchargement partenaires.
Et puis nous reviendrons à 8h20 sur la fameuse affaire du Grélet, ancien gendarme et policier, avec Frédéric Pechenard, qui lui est l'ancien patron de la brigade criminelle de Paris et ancien directeur de notre police nationale. Une pause et dans un instant, comment sont faits les sondages qui rythment la campagne. La brigade RTL a enquêté, vous verrez qu'on est payé quand on est sondé.
RTL.
RTL Matin.
8h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Éric Zemmour continue sa percée dans les sondages.
Oui, la dernière enquête Harris pour le magazine Challenge hier place celui qui n'est pas encore candidat, rappelons-le, à 17% d'intention de vote pour la première fois devant Marine Le Pen et donc qualifié pour le second tour. Alors il faut prendre tous ces sondages avec une grande prudence. On va y revenir longuement avec la brigade RTL dans un instant. Mais tout de même, hier soir, Marine Le Pen a publié une vidéo sur son compte de campagne pour tenter de minimiser cette dynamique Zemmour.
Non, je ne suis pas du tout ramolli. Je suis extrêmement sûr, non seulement de ma volonté d'être président de la République, mais même de ma capacité à être élu président de la République. Donc, je suis désolé de ne pas participer à mon 18e enterrement de moi-même, parce qu'on m'enterre tous les 6 mois, j'ai un peu l'habitude. Je me suis posé la question de savoir si au bout de 10 enterrements, il y en avait un qui était gratuit.
Voilà Marine Le Pen qui ironise donc. Et effectivement, précisons-le, un autre sondage Elab hier pour BFM, le même jour donc, placé Éric Zemmour à 13% et donc pour le coup pas qualifié pour le second tour.
Alors, la brigade RTL a enquêté en coulisses des instituts d'opinion qui vont rythmer la campagne présidentielle.
Et on est avec vous, William Galibert. Bonjour.
Bonjour.
Prenons d'ailleurs cet exemple. Tiens, deux sondages le même jour, l'un qui place Éric Zemmour à 17 et l'autre à 13%. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces sondages ?
Oui, mais si on les prend pour ce qu'ils sont, pour une photo, pour un instantané, on peut aussi voir les grandes tendances, les dynamiques au fil des semaines. Pour ça, oui, c'est utile et plutôt fiable. Mais si vous espérez lire le résultat d'une élection qui a lieu dans 6 mois, là, vous êtes sûr de vous planter. Et puis, il faut aussi prendre en compte ces fameuses marges d'erreur. Pour Éric Zemmour à 17% par exemple, il y a une marge d'erreur d'environ 2 points. Ça veut dire que l'Institut Harris le situe quelque part entre 15 et 19%. Mais tout ça est fait scientifiquement, pas de coups fourrés, pas de doigts mouillés, m'ont assuré tous les sondeurs à qui j'ai parlé. Puis il y a une commission des sondages qui surveille tout ça. Sur le site de cette commission, vous trouvez les notices détaillées de chaque enquête avec la méthode, les gens interrogés, leur âge, leur région, absolument tout.
Alors justement, vous avez enquêté en coulisses de ces instituts. Comment sont-ils réalisés, ces enquêtes ?
Plus aucun coup de fil. Maintenant, tout se passe sur Internet. On coche des cases sur des questionnaires en ligne. C'est aussi simple que ça. Ça va vite. En 48 heures, vous pouvez boucler une enquête auprès de 1000 personnes, uniquement des gens qui se sont inscrits. Et vous les avez sûrement vus en ligne, ces publicités, ces bannières qui disent « Venez participer à des enquêtes rémunérées ». Eh bien, c'est là que ça se passe.
Et ça veut dire qu'on est payé quand on est sondé, alors ?
Oui, mais payé, c'est un bien grand mot, parce qu'en général, le salaire, ce sont des bons d'achat, ou alors, au mieux, quelques centimes d'euros, 10 ou 20 centimes pour une enquête. Et puis, chaque institut renouvelle constamment ses panels. Donc, vraiment pas de quoi faire fortune.
Merci beaucoup, William Galibert. L'enquête de la brigade RTL ce matin en coulisses des instituts de sondage.
Il est 8h12. On en vient à cette information RTL et le système de crédit d'impôt qui va être simplifié à partir de janvier.
Oui, 1 100 000 Français auront le droit, s'ils font la démarche, au crédit d'impôt en temps réel, quand ils emploient par exemple une aide ménagère ou un jardinier. Cela évite d'avancer l'argent et le gouvernement l'espère. Cette simplification permettra de pousser les Français à déclarer leurs employés à domicile. Aujourd'hui, on estime que 150 000 emplois sont du travail au noir, comme pour ce Français que vous avez rencontré, Anaïs Bouissou.
Tous les premiers mercredis du mois, le rituel est le même pour Olivier, se rendre au distributeur le matin avant de partir travailler.
Je vais devoir régler ma femme de ménage, je la paye au black.
13 euros de l'heure.
Le mois dernier, elle nous a fait 14 heures. Évidemment, le distributeur ne va pas me donner 182 euros. Donc je vais arrondir à 180, et les autres fois, j'arrondis au-dessus. Et voilà le salaire de ma femme de ménage. Elle vient quand je suis pas là, quand je suis au boulot, je reviens, tout est propre, tout est nickel. Elle me l'a proposé dès le début que je la déclare. C'est juste le temps que ça va me prendre qui me rebute. On reste sur des petites sommes, j'ai pas l'impression d'escroquer qui que ce soit.
2 heures plus tard, Olivia récupère son argent.
C'est bon.
Et débute son travail.
On fait la vaisselle.
Sur 8 employeurs, la moitié la déclare.
Je suis déclarée lundi, mardi, mercredi, jeudi non. Et vendredi, oui.
Mais avec les confinements du Covid, Olivia s'est rendue compte de sa précarité quand elle n'est pas déclarée.
Pendant le Covid, je n'ai pas pu travailler. Je vais demander à être déclarée.
De son côté, Olivier, l'employeur, attend de voir si le crédit d'impôt en temps réel est facile d'utilisation. Il ne déclarera son employé qu'à condition de limiter au maximum la paperasse administrative.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou. Et notez que pour les parents qui emploient une garde d'enfants, il va falloir être un peu patient. La simplification n'interviendra pas avant 2023.
Le football, la France affronte la Belgique ce soir en Ligue des Nations.
Et oui, c'est la revanche pour les Belges, en tout cas, de la demi-finale perdue du dernier mondial. C'est surtout un vrai test pour les Bleus après quelques matchs en demi-teinte. Robert Pires, notre consultant RTL M6, va regarder de près notamment la performance de Kylian Mbappé.
Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il le reconnaît. Ça veut dire qu'il y a eu une remise en question, une mise à plat de tout ce qui a pu se faire ou pu se dire. J'ai été confronté à ça. Quand on est dans des grands clubs, et je l'ai été avec Arsenal, on est susceptible à rencontrer des grands joueurs avec beaucoup de personnalité et beaucoup d'ego. Bon, ça, c'est pas un problème parce que généralement, les grands joueurs, et Kylian en fait partie, ont un ego. Moi, ça me dérange pas que Kylian Mbappé, il ait beaucoup d'ego, mais maintenant, à lui de bien s'adapter à l'équipe de France, aux autres joueurs aussi, de bien s'adapter à comment il est, comment il évolue, parce qu'il faut pas oublier qu'il est jeune, ça a été très vite. Il suffit juste de discuter. Moi, j'ai pas très de secret, mais par exemple, avec Thierry Henry, on a eu des phases où il fallait discuter, il fallait parler, et puis surtout, il fallait que ça explose, entre guillemets. Maintenant, aussi aux joueurs de dialoguer. Et après, Didier Deschamps, il a un rôle aussi capital, c'est de dire à son joueur ou à ses joueurs de dire « Ok, il y a des choses qui n'ont pas été sur un plan individuel, mais moi, ce que je voudrais, c'est le plan collectif. » Donc maintenant, à Kylian, tous ceux qui ont une forte personnalité, qui ont un ego assez fort, maintenant, il faut que tous les joueurs le mettent à contribution sur le terrain pour que l'on regagne de nouveau des trophées.
Voilà l'appel de Robert Pires, consultant RTL M6 au micro de Philippe Sanfourche. Ce sera une soirée spéciale sur RTL. RTL Foot spécial Ligue des Nations dès 20h40.
C'était le journal d'Olivier Bois. Dans un instant, Cyprien Sini surf.
Avec Emmanuel Macron, j'attendais ça.
RTL, revivre ensemble. RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Il est 8h17, Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec un Emmanuel Macron imperturbable.
Mais oui, parce que pendant que ça s'agite partout dans les sondages, Zemmour, Le Pen, Zemmour, et ben pendant ce temps-là, chez le président.
Oh la belle vie, sans amour.
Ça se frise les moustaches, souci, ça reste cool, problème. Tranquille. La preuve, la semaine dernière,
Emmanuel Macron lui gagne 6 points de popularité à 46% d'opinion favorable.
Eh oui, en restant discret. Pépouze à l'Elysée, loin du brouhaha médiatique. Partout, à la télé, à la radio, ça débat, ça discute des sondages comme hier. Zemmour au deuxième tour.
Ce sondage, il pourrait changer beaucoup de choses.
Ça va créer une onde de choc au sein des différents partis politiques.
Ouais, enfin, mollo l'onde de choc chez Emmanuel Macron. Hier, lui, pendant ce temps-là, il était à Ljubljana, en Slovénie, sous son parapluie, en train d'expliquer.
Nous avons une très bonne discussion aujourd'hui sur les Balkans. La discussion Serbie-Kosovo, Belgrade-Pristina demeure très, très complexe et tendue.
Ouais, très très loin de tout ça, quoi.
Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis.
Sous son parapluie, hein, tranquille, pour parler des Balkans. De toute façon, ça fait des semaines que les sondages s'excitent dans tous les sens. Mais alors, il y a une chose qui ne bouge pas.
Emmanuel Macron ne bouge pas à 23-24% des intentions de vote.
Bien calé, le président, ça s'agite de partout. Et lui, pendant ce temps-là, avec son pote, le Premier ministre grec.
Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Cher Kyriakos, d'être à nos côtés pour, en effet, inaugurer cette exposition Paris-Athènes au Louvre.
Eh oui, il inaugure une expo au Louvre avec Kyriakos, tranquille. Il fait des blagues en allant suivre les travaux d'une bibliothèque.
C'est très intimidant de se retrouver là. Pour nous tous, il y a aussi, je dirais presque, un fantasme borghésien, avoir une bibliothèque qui a cette histoire totalement vide.
Le fantasme borghésien. Et sinon, niveau sondage, comment ça se passe ?
Emmanuel Macron, lui, dans ce second tour, y est toujours. Il emporte ce second tour face, que ce soit à Éric Zemmour ou Marine Le Pen.
Ben ouais, hein. Voilà. Ça roule, quoi. Tranquille, du coup. Il a même le temps de faire un peu d'anglais au One Planet Sovereign Well Found.
I would like to take this opportunity to welcome the new members and you will introduce them right after.
Well, again, yeah. People, hein, il m'énerve à bien parler anglais. Bref, pour l'instant, bien tranquille au palais, le président préside et compte les points parce qu'en fait, sur le fond, ben...
Emmanuel Macron conserve un socle électoral solide, prêt à revoter pour lui.
4 électeurs sur 5 qui nous disent qu'ils pourraient effectivement encore voter pour lui.
Eh oui, ça doit être ça en fait, une partie de ce qu'on appelle la majorité silencieuse.
Ben voilà. Et en tout cas, j'ai retenu au moins 2 titres de Herbal Père, tout à fait. Tiruana Brass, je le rappelle.
Je suis fan.
Ben oui, moi aussi. Merci Cyprien Sini. Rendez-vous ce soir dès 18h40 pour défaire le monde avec toute votre équipe.
L'info sérieuse sans se prendre au sérieux.
Dans un instant, un grand flic français prend la parole, Frédéric Pechnard, ancien patron de la brigade criminelle, avant de devenir le directeur général de notre police nationale. Il va revenir sur la fameuse affaire Dugrélé, cet ancien gendarme et policier tueur en série, une affaire qui l'a obsédé.
Calvi, RTL Matin.
Il est 8h23. Bonjour Frédéric Pechenard.
Bonjour FKSB.
Vous êtes l'ancien patron de notre brigade criminelle de Paris dans les années 2000. Vous avez aussi dirigé notre police nationale. Et nous revenons avec vous ce matin sur la fameuse affaire du Grêlé, donc ce tueur en série. D'abord gendarme, je le rappelle, puis policier. Il s'est donné la mort il y a quelques jours au Gros-du-Roi. Cette affaire a largement, je ne sais pas s'il faut dire, hanté votre carrière et votre vie de policier, Frédéric Pechenard. Combien de temps avez-vous passé à tenter de résoudre cette affaire ?
Bien, moi, j'ai passé à peu près 10 ans à la brigade criminelle. Et dans ces 10 années, nous avons passé, parce que vous savez, l'exercice de l'enquête, c'est d'abord un travail d'enquête. Nous avons passé toute une partie de ces 10 ans à essayer de solutionner ces affaires. Il faut comprendre que ce sont les affaires les plus graves que peut avoir la brigade criminelle. La brigade criminelle est saisie des homicides, meurtres et assassinats, des affaires de terrorisme et puis des affaires de tueurs en série. Or, dans les affaires, disons, classiques d'homicides, le gendre qui assassine sa belle-mère, la bagarre qui tourne mal, etc., etc., le temps joue pour les enquêteurs. Alors que dans les affaires de tueurs en série, le temps joue contre les enquêteurs parce qu'on est toujours hanté par le fait qu'il va recommencer.
Mais alors justement, combien de personnes étaient mobilisées sur l'enquête ? On a quoi ? 35 années d'enquête sur l'intégralité de son...
Absolument, ça a duré pendant 35 ans. Les affaires sur les tueurs en série ou les violeurs en série sont des affaires qui sont assez longues. Et cette affaire, elle a été particulièrement difficile parce qu'elle a duré justement très longtemps. Dans la période où j'étais à brigade criminelle, on a travaillé sur plusieurs affaires de tueurs en série, Claude Lastenay, Mamadou Traoré, Guy Georges, Thierry Paulin. C'est toutes des affaires qui ont été résolues. Et finalement, celle-là, c'était la dernière grosse affaire, entre guillemets, de tueurs en série que la brigade n'avait pas résolue. Et c'était important, très important pour les victimes, pour les policiers eux-mêmes qui ont travaillé. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a des policiers qui ont travaillé sur cette affaire, qui non seulement n'étaient pas policiers en 1986, au début, mais qui n'étaient même pas nés en 1986. Donc pour eux, c'est très très lointain.
Sur plusieurs générations.
Sur plusieurs générations.
Bon, le sentiment.
Et puis, ce qui est important, c'est le message que ça envoie aux assassins, comme d'ailleurs aux victimes, c'est que la brigade criminelle n'abandonne jamais.
Vous avez eu un sentiment d'échec, parfois ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est on me demande de temps en temps quelle est l'affaire qui m'a le plus marqué. Je réponds toujours, les affaires qui vous marquent, ce sont les échecs. Finalement, quand vous réussissez une affaire, bah, vous en êtes légitimement fier de votre service, fier de la brigade criminelle. J'en profite pour rendre un hommage appuyé aux hommes et aux femmes de la brigade criminelle qui sont vraiment des policiers exceptionnels. Mais ce qui vous reste, c'est les échecs. Et celui-là, c'était sans aucun doute l'échec le plus important. C'est pour ça que tous les policiers qui ont travaillé sur cette affaire et qui sont maintenant à la retraite ou dans d'autres services ont été soulagés d'apprendre la fin de cette affaire.
Mais expliquez-nous, vous faisiez du surplace ou il y a des moments où vous aviez justement l'impression d'avancer et de tirer le fil d'une pelote qui allait vous permettre de franchir des étapes
parce Bien sûr, alors une enquête, c'est pas un long fleuve tranquille, surtout sur 35 ans. Il y a des périodes où il se passe pas grand-chose, il y a des périodes où au contraire, je dirais peut-être pas, 10 fois, 15 fois, on a pensé qu'on le tenait, on s'approchait de lui, on avait un profil qui correspondait en tout point. Et puis finalement, on a arrêté 10, 15, peut-être 20 personnes en pensant que c'était lui. Et finalement, il a fallu attendre toute cette période pour l'identifier. Mais finalement, c'est l'enquête, une fois de plus, qui l'a poussé à se suicider. Je pense que si la brigade criminelle et le juge d'instruction n'avaient pas été aussi offensifs sur la dernière phase, eh bien, il continuerait à couler des jours heureux.
Frédéric Pechenard, l'hypothèse que le meurtrier soit l'un des vôtres vous a-t-elle traversé l'esprit ? Était-elle soulevée ?
Oui, bien sûr, dès le départ.
Plus
exactement, dès le départ de l'ADN. C'est-à-dire que l'affaire de... Rappelons
oui,
que quand on prend la première affaire en 1986, l'affaire de la petite Cécile Bloch, on prend un an après une deuxième affaire, l'assassinat d'un couple avec acte de torture et de barbarie. On ne fait d'ailleurs pas de lien entre ces deux affaires, ce n'est pas le mode opératoire, ce ne sont pas les mêmes victimes. Mais à l'époque, l'ADN n'existe pas, les caméras de vidéoprotection n'existent pas, les portables n'existent pas, on ne peut pas faire de géolocalisation. Donc on fait, si je puis dire, avec ce qu'on a, c'est-à-dire qu'avec la qualité des hommes et des femmes de la brigade criminelle, mais malheureusement rien de plus. Et puis il se passe quelques années, 10 ans en fait, et entre dans les années 94, 95, 96, grâce au professeur Olivier Pascal, qui est le pionnier, un des pionniers de l'ADN en France, mais avec qui la brigade criminelle travaille. Ce n'est pas un policier, ce n'est pas un gendarme. À cette époque-là, en 94-95, les laboratoires de police et les laboratoires de gendarmerie ne font pas de l'ADN. Donc on est vraiment dans... Et c'est lui qui lit des affaires, c'est l'ADN qui lit des affaires entre les deux homicides dont on a saisi la brigade criminelle et les trois viols avec agression particulièrement violente, puisqu'une des petites filles est laissée pour morte, mais trois viols, deux petites filles qui sont vivantes. À ce moment-là, je vous dis de mémoire, je crois qu'on est en 95 ou 96, on reprend ces cinq dossiers, et là, on a des victimes qui ne sont pas mortes, et donc qui peuvent témoigner. Et là, à ce moment-là, elles nous décrivent quelqu'un dont les enquêteurs pensent, à juste titre d'ailleurs, que ça peut être un gendarme, un policier, un militaire, ou quelqu'un qui a travaillé dans le domaine de la sécurité privée. Et je vous donne un exemple. Oui. À un moment, il y a une des petites victimes qui dit « il m'a dit qu'il avait été moniteur dans une colonie de vacances ». Eh ben, on s'est intéressé aux moniteurs dans les colonies de vacances. On en a ciblé un certain nombre, etc., etc.
Ça veut dire qu'il y a un moment où vous êtes, pardonnez-moi, je prends une image, autour de la table et vous vous dites les uns les autres, et si c'était l'un des nôtres ?
Oui, bien sûr, mais c'est pas.
Mais excusez-moi, je.
C'est pas un tabou que ça soit.
C'est pas un tabou ?
Bien sûr que non, bien sûr que non. En aucun cas, ça n'a freiné. Le problème d'avoir un policier ou un gendarme. Ou un militaire, mais surtout un policier ou un gendarme comme tueur en série, c'est que par définition, c'est quelqu'un qui connaît nos méthodes. Par définition, c'est quelqu'un qui va être plus prudent. Par définition, par exemple, on n'a plus jamais trouvé, à ma connaissance, hein, une fois de plus, je vous rappelle que j'ai quitté la brigade criminelle il y a 18 ans, donc oui. Mes souvenirs sont précis, mais parfois pas tant que ça. On n'a plus trouvé d'ADN sur des scènes de crime qui pouvaient le mettre en cause après 1994. Et c'est justement à cette époque-là que dans la police, on commence à parler de l'ADN. Donc, vous voyez, c'est peut-être qu'il nous a échappé entre 1994 et a priori, d'après ce que j'ai lu dans la presse, il a écrit une lettre. Et dans cette lettre, il dit qu'il a arrêté en 1997, ce qui signifie qu'on ne sait pas, que la police ne sait pas pour l'instant. On voit bien que l'enquête, d'ailleurs, n'est pas terminée. Non. L'enquête durera plus de 35 ans, elle est en cours, parce que qu'est-ce qu'il a fait entre 1994 et 1997 ? Probablement, il a pris d'abord des précautions pour ne pas laisser d'ADN sur place.
Alors, j'ai une question plus personnelle. Vous êtes un homme occupé et vous avez des fonctions éminentes, mais vous avez décidé d'en parler aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui vous pèse d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que c'est une façon de parler du métier de policier qui fut le vôtre ? Et comment, finalement, avez-vous réagi à l'annonce de sa mort ?
Ben d'abord, oui, c'est une façon d'abord de rendre hommage aux policiers de la police judiciaire et plus particulièrement de la brigade criminelle. J'ai été 30 ans commissaire de police, j'ai passé 25 ans au sein de la police judiciaire et je trouve que les policiers, d'une façon générale, puisque j'ai eu aussi l'honneur de diriger la police pendant 5 ans, mais particulièrement ceux de la police judiciaire que je connais particulièrement bien, sont des gens qui sont tout à fait exceptionnels. Et maintenant, à la place qui est la mienne, quand on fait de la politique, eh bien on a une grande liberté, en tout cas de ton, oui. Mais ça me permet de leur rendre hommage à tous les policiers de France et policières de France, et particulièrement donc aujourd'hui à ceux de la brigade criminelle, ça me permet de leur rendre hommage et de les soutenir dans une période qui n'est pas facile pour eux.
Quand je dis ce nom, François Vérove, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement ?
Je ne prononce jamais le nom des monstres.
Merci beaucoup Frédéric Pechenard d'avoir pris la parole ce matin sur RTL pour revenir sur ce dossier qui a été douloureux mais qui finalement a abouti. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Louis Baudin, notre météo à 7 jours maintenant.
Oui, qui s'annonce plutôt favorable au cours de ces prochains jours. L'anticyclone revient s'installer sur la France, plutôt sur la partie nord. Tous les modèles sont d'accord, donc ça veut dire que cette situation va rester bloquée là pour quelques jours, avec donc la garantie d'avoir du temps sec quasiment partout. Alors, il y aura quand même quelques nuances. C'est vrai qu'on notera probablement quelques brouillards, quelques nuages peut-être le matin près des reliefs, mais dans l'ensemble, donc du temps sec. Et ce temps sec, avec ces petits brouillards le matin et le soleil l'après-midi, devrait nous accompagner au moins jusqu'à lundi prochain. Avec côté température, un fort contraste entre le matin où lorsque le ciel sera totalement dégagé durant la nuit, on ne sera pas très loin des gelées, entre 2, 5, voire 7, 8 degrés, sauf en bord de mer et près de la Méditerranée où on aura toujours plus de 10 degrés. Et l'après-midi où là les températures sont entre 15 et 20 degrés dans la moitié nord et de 20 à 25 degrés dans le sud. Donc vraiment des journées très agréables. Et puis mardi, là on devrait avoir de l'air beaucoup plus froid arrivant par le nord. Donc là les gelées seront plus fréquentes, mais ça s'accompagnera probablement de grisailles un peu plus tenaces, notamment dans les régions du nord et du nord-est. Toujours du soleil dans le sud, avec sûrement un peu de mistral et de tramontane. Et puis des températures qui, cette fois-ci, auront peut-être du mal à dépasser les 15 degrés dans la moitié nord et les 20 degrés dans le sud. Donc, petit coup de frais à partir de mardi prochain.
Bon, écoutez, pour l'instant, ça va être agréable.
Bah, pour le week-end,
et puis,
notamment.
C'est l'automne, un petit coup de frais, c'est normal.
Voilà.
Après, on demandera un petit peu de neige en montagne pour ceux qui aiment le ski.
Oui, c'est
après, sur vous pour suivre le dossier.
Oui, mais
on fait par étapes. Enfin, quand même, on se projette un petit peu. Vous voyez,
oui, moi aussi.
C'est sympathique. Merci beaucoup Louis Merci. Baudin, bonne journée à vous. Nous allons retrouver Cyril Lignac et Laurent Gérard dans quelques minutes, en tout cas dans la demi-heure qui vient, mais je voulais aussi vous donner ce rendez-vous tout à l'heure entre 9h30 et 12h30 avec Julien Courbet qui vous offre aujourd'hui pas moins de 10 000 euros cash, dans Ça peut vous arriver, 10 000 euros cash. Pour tenter de gagner cette somme, eh bien envoyez dès maintenant les trois lettres RTL par SMS au 74 900. Vous savez que je dois vous signaler que ça coûte 0,75 euros plus le prix du SMS. Le tirage au sort pour connaître le gagnant de ces 10 000 euros se fera tout à l'heure dans l'émission de Julien avant midi et demi. Avant midi et demi. Dans un instant, RTL autour du monde, nous partons en Allemagne suivre l'ouverture du procès d'un ancien nazi centenaire qui va devoir répondre à partir d'aujourd'hui de complicité de meurtre sur plus de 3500 personnes. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Steven Bellery.
Laissez-vous tenter.
Voilà 21 ans qu'il n'avait pas enregistré de nouvelles chansons. Gérard Lenormand publiera demain Le Goût du Bonheur, disque bilan sur la vie et le destin. Il y parle aussi pour la première fois de sa relation complexe avec sa maman. Gérard Lenormand sera notre invité en direct à 9h dans Laissez-vous tenter.
Ne bougez pas, laissez-vous tenter, c'est dans 30 minutes sur RTL. RTL autour du monde.
Il est 8h35, RTL autour du monde, direction l'Allemagne ce matin, où dans quelques minutes va s'ouvrir devant un tribunal local de Brandebourg un procès d'un genre tout à fait particulier. Josef Schulz est centenaire, il est poursuivi pour complicité de meurtre sur 3500 personnes. Ce vieil homme est un ancien gardien de camp de concentration, celui de Sachsenhausen. Il fait face aujourd'hui au juge. On va en parler avec notre correspondant en Allemagne, Léo Brauer-Potier. Bonjour Léo.
Bonjour Léo. Schönen guten Morgen Yves, bonjour tout le monde.
Vous êtes en direct de Berlin. Léo, qui est à l'origine du procès ?
Eh bien, il y a pas moins de 16 parties civiles à ce procès. On y trouve des survivants du camp de Sachsenhausen, mais aussi des ayants droit, des enfants, la famille, des dizaines de milliers de victimes du camp entre 1936 et 1945. Et parmi ces ayants droit, on trouve un architecte français, Antoine Grumbach. Son père, Jean, était un militaire français ayant résisté en Algérie, déporté à Sachsenhausen, où il meurt en 1944. Pour Antoine Grumbach, la responsabilité de Josef Schulz, l'ancien garde SS, ne fait aucun doute.
Le type est coupable, il a tout vu, il a tout su, il connaît tout. Le type, il a tout vu, tu peux pas rester pendant, je sais pas, 4 ou 5 ans, il a été 5 ans ou 6 ans, il a été gardien de camp et il a tout vu, puisque c'était eux qui leur tapaient dessus quand ils sortaient pour qu'ils sortent, il les faisait marcher dans le froid pour qu'ils crèvent de froid, enfin, etc. C'était ça le rôle des gardiens de camp.
Et pourtant, Léo, le désir de revanche, hein, ce n'est pas ce qui anime visiblement les parties civiles au procès, c'est autre chose.
Oui, parce que ça ne sert certainement pas à grand-chose de chercher à se venger, en particulier quand les accusés approchent le crépuscule de leur vie. Du coup, l'un des bénéfices de ce procès, ça va être de mettre une nouvelle fois en lumière l'industrie de la mort mise en œuvre par les nazis. Et ça, c'est très important pour Antoine Grumbach.
Il s'agit de les juger pour qu'il y ait un procès avec des pièces écrites. Déjà, ils ont les juges ont réalisé l'acte d'accusation. Ben voilà, c'est un document qui n'aurait pas été fait s'il n'y avait pas eu ce procès et qui va rester dans les archives pour des années. Que à un moment donné, un pays très intelligent, très cultivé, tout d'un coup a mis son savoir technique et industriel dans la production de la mort.
L'autre bénéfice de ce procès sera, selon le comité international à Auschwitz, d'être un électrochoc, une piqûre de rappel, une sorte de rempart mémoriel pour générer de l'intérêt médiatique, surtout auprès des jeunes générations qui peuvent se sentir éloignées de l'histoire de l'Holocauste.
Bien entendu. RTL autour du monde, merci Léo Brauer-Potier. On suivra ce procès d'anciens nazis avec vous. Vous étiez en direct de Berlin.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h38 et ce matin, Isabelle Choquet, une parole plutôt rare, la maman de Kylian Mbappé qui raconte son fils et sans détour.
Oui, Faïza Lamari est la mère et la manageuse d'Mbappé. Lamari, parce qu'elle est séparée de son mari précisément depuis 18 mois. Elle est toujours restée dans l'ombre, mais aujourd'hui elle voulait rétablir quelques vérités et elle le fait face aux lecteurs du Parisien. L'été dernier, dit-elle, Kylian était devenu celui qu'il fallait abattre sur la place publique. Il a 22 ans, il va commettre des erreurs, mais il ne méritait pas tout ça, donc là, je sors telle une louve. Comme comme une maman, elle pardonne beaucoup, elle l'excuse. Il a, c'est vrai, cette assurance qu'on lui a donnée avec son père, dit-elle. C'est ce qui fait sa force. Je lui ai toujours dit, on vient de Bondy et si tu n'as pas confiance en toi, qui va l'avoir à ta place? Ce n'est pas le même en off, mais c'est la seule manière qu'il a trouvé de se protéger. Kylian est un précoce, ajoute Faïza, donc toutes ses réactions positives ou négatives sont exacerbées. Quand il est heureux, c'est un gamin de 3 ans. Quand il est malheureux, il pleure. Pour qu'il donne la quintessence de son potentiel, il doit se sentir aimé, désiré et ne pas être le problème. Il y a tout de même quelques désaccords. Quand Mbappé a traité Neymar de clochard, par exemple, parce qu'il ne lui avait pas passé le ballon, moi, la première, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» répond sa maman. « Mais c'est un joueur, un sale gosse, il provoque en permanence. C'est un jeu pour lui, il n'y a aucune méchanceté. » Dans cette interview, il est aussi question d'argent. Honnêtement, quand il a signé au PSG, on ne savait pas combien Kylian allait toucher, dit Faïza Lamari. Aujourd'hui, l'avantage d'avoir de l'argent, c'est qu'on fait des choix qui, justement, ne sont pas dictés par l'argent. Par exemple, si on avait prolongé, on serait plus riche. Idem si on avait pas refusé des contrats marketing. Mais j'ai toujours dit à Kylian, à quel moment tu vas être heureux? Quand tu en auras 200, 300? Pendant 3 ans, nous, on n'a pas touché à l'argent. On avait le syndrome du pauvre. J'avais peur qu'on me réveille et qu'on me dise, rends l'argent. On commence à investir depuis un an environ, mais Kylian ne joue pas au foot pour l'argent, sinon il n'aurait pas réussi tout ce qu'il fait. Son rapport à l'argent est particulier. Par exemple, il n'a jamais de carte bleue ni d'argent sur lui. Parfois, je lui dis, tu veux pas prendre 200 euros sur toi? Il me répond, non, non, pas la peine, je vais juste jouer au foot. C'est pas un grand dépensier. Mbappé est aujourd'hui le joueur le plus cher du monde, une démesure qui effraie sa mère. J'ai toujours eu peur, dit-elle, qu'il soit un modèle, c'est une fierté, mais qu'il soit une icône, non, parce que ça amène trop de responsabilités, un devoir d'exemplarité. Le conseil que je lui donne, c'est prends ce qu'il y a à prendre dans ce monde-là, mais ce n'est pas le tien. Et pour le reste, eh bien, on continue à aller manger le poulet chez mamie à 10 dans un F3. Et quand on lui demande ce qu'elle admire le plus chez son fils, elle répond peut-être son empathie et son intelligence émotionnelle, mais aussi le fait qu'il ait réussi à mettre en œuvre tout ce qu'on lui a véhiculé pendant des années. Mbappé, sa vie, son image, mais aussi son avenir, sa place chez les Bleus, ses engagements. Grande interview donc de sa maman à lire dans Le Parisien aujourd'hui.
Quel formidable portrait d'une mère et d'un fils. Merci beaucoup Isabelle Choquet. À demain.
À demain.
Avec plaisir.
RTL, vous êtes comme ça.
À 6 mois du premier tour de la présidentielle, Vous êtes comme ça vous donne la parole tout au long de cette semaine pour savoir ce que vous attendez de cette campagne et de cette élection. Quelles sont vos préoccupations au quotidien? Que faut-il changer ou améliorer? Et ce matin, nous allons vous faire entendre des Français heureux, de nouveaux Français, très fiers, car ils viennent de devenir citoyens de notre pays grâce au long parcours administratif de la naturalisation. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez rencontré ces nouveaux Français lors d'une cérémonie de naturalisation à la préfecture de l'Aude à Carcassonne.
Ce jour-là, ils sont 16 originaires de 10 pays différents à être réunis. Des élus, des porte-drapeaux et le préfet sont à leur côté. Les valeurs de la République leur sont d'abord rappelées dans une vidéo.
La liberté, c'est le droit d'aller et venir librement, d'avoir et d'exprimer les opinions de son choix, dans la limite de l'interdiction des propos racistes ou incitant à la haine.
Et accompagné par quelques mots du préfet de l'Aude, Thierry Bonnier.
Mes chers compatriotes, je vous souhaite la bienvenue dans notre communauté nationale, qui est désormais la vôtre. Vive la République et vive la France.
Quelques minutes plus tard, et après une Marseillaise, chacun reçoit un diplôme de naturalisation, comme Aziza, d'origine marocaine.
Beaucoup d'émotions et de la joie, et fière d'être française.
Andrew, qui a grandi aux États-Unis.
Ça fait longtemps que je veux devenir français, depuis 10 ans que je suis en France.
Ou encore Sylvia, d'origine roumaine.
Très fière d'être française, de me sentir tout près d'un pays dont j'étais l'ambassadrice depuis 34 ans.
Parce que vous étiez prof de français.
Oui.
Le préfet de l'Aude est lui aussi très touché par cette cérémonie.
Je vous assure que c'est aussi émouvant pour les personnes qui participent. C'est les moments où en fait on incarne pleinement la République, l'État, et on essaye de faire partager des valeurs qui sont fortes.
Alors justement, Patrick, ces fameuses valeurs de la République, vous en avez parlé avec ces nouveaux Français. Est-ce important pour eux? Est-ce vraiment ce qui détermine leur choix de devenir Français?
Eh bien, il y a aussi et forcément des considérations matérielles, mais très clairement, ces valeurs ont également pesé lourd dans leur choix. Aziza, par exemple, est soucieuse de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Moi, même en étant marocaine, je suis élevée avec une famille ouverte, donc on avait toujours ce principe d'égalité. français, le respect et la liberté, donc les valeurs de France, ça me correspond vraiment.
Andrew, l'ancien américain, évoque lui des services publics de qualité comme celui de la santé.
Le fait que tout le monde est soigné, si on est malade, les choses comme ça en France qu'on n'a pas ailleurs, de sentir protégé par notre pays un peu plus. J'ai vécu 30 ans aux États-Unis et quand on est malade ou quand on a des problèmes et on n'a pas d'assurance, on va recevoir une facture de 30 000 euros ou 50 000 euros. Moi, je paye les impôts en France, plus qu'aux États-Unis peut-être même, mais ça vaut la peine.
De son côté, Sylvia, l'ancienne Roumaine, parle d'abord de laïcité.
Une valeur qui n'existe pas dans d'autres pays. Je me sens très proche de ça. C'est le principe de la fraternité, d'égalité, d'accepter les gens, quelle que soit leur religion.
Enfin, la France, c'est aussi le sens de la fête, ajoute Sylvia, qui ce soir-là, a comme Aziza et Andrew, célébré l'événement.
Une bonne bouteille de champagne qui nous attend et je vais fêter avec mes amis et mon mari. C'est mon jour de gloire aujourd'hui.
Le jour de gloire est arrivé, la Marseillaise.
Ben voilà.
Et bien voilà des Français heureux. Merci Patrick Hisson pour ces ondes positives. Comme dit l'écrivain Sylvain Tesson, la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Et il est bon de s'en souvenir parfois. Demain, nous irons en Meurthe-et-Moselle avec Samuel Goldschmidt. L'occasion de parler de la fracture numérique dans nos campagnes. On retrouve Laurent Gérard dans un instant. Et ne manquez pas la recette de chouchouka signée Cyril Lignac juste avant 9h.
RTL Matin, 7h, 9h30.
Avec Yves Calvi.
Nous sommes jeudi matin. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour tout le monde. Même s'il compte faire durer le suspense le plus longtemps possible sur sa candidature, le président de la République étudie de très très près l'évolution des sondages. Rendons-nous vite à l'Élysée.
Emmanuel, viens donc te coucher. Demain, on a Stéphane Bern qui vient déjeuner. Il va encore nous bastiner avec ses habits en ruine. Il faudra être bien réveillé, hein.
Mais Brigitte, regarde Éric Zemmour. Il fait des débats tous les jours et toutes les nuits, sur toutes les scènes. Il est formidable. Un cavalier qui survit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un zen qui va dire Zemmour. Zemmour, regarde, les équipes face à moi. Zemmour, vainqueur, il l'est à chaque fois. Oh là 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 là, ça me rappelle la minute à voix avec Bernard Golel samedi après-midi.
Oh oui.
Mais c'est vrai que ce Zemmour est un excellent débatteur, hein, qui sait très bien dramatiser le débat. C'est pour ça que je vais t'inscrire à une masterclass de théâtre pour que tu apprennes toi aussi à dramatiser les choses. Ok, Goglet, appelle le cours Sacha Guitry.
Ok, Brigitte, j'appelle Pierre Arditi.
Allô, non, mais je crois pas. Non, qu'est-ce qui me dérange en plus une représentation de Fallait pas le dire au théâtre de la Renaissance?
Ah, bonjour Pierre Arditi, c'est Brigitte Macron. Puisque je vous ai au téléphone, vous ne voudriez pas donner quelques cours à Emmanuel pour qu'il fasse moins employé de banque face à Éric Zemmour?
Mais comment ça, des cours d'art dramatique à Macron? Mais non, mais je le crois pas. Non, je rêve. Non, mais c'est pas possible. Non, mais je rêve. Là, c'est lamentable. C'est affligeant. Non, mais foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix.
Bon, c'est pas grave. On va plutôt essayer de te donner une carrure de sauveur du monde à la James Bond face au terrible Monsieur Z comme Zemmour. Ok, Goglet, appelle Daniel Craig.
Ok, Brigitte, j'appelle le Beg.
Beg?
François Bayrou, j'écoute.
Excusez-moi, François Bayrou, c'est une erreur. Je cherchais un coach pour Emmanuel.
Mais il a déjà un coach. C'est moi. Souvenez-vous qu'il les fait gagner en 2017. Souvenez-vous.
Ah oui, bien sûr. Moi, je voulais plutôt quelqu'un comme James Bond 007.
Qu'à cela ne tienne. My name is Roux. Bayrou.
Bonjour Olivier Véran, vous allez bien?
Pas du tout, depuis que le variant Zemmour est apparu, plus personne ne parle du Covid, j'ai l'impression de ne plus exister.
Alors justement, le moment n'est-il pas venu de laisser les Français aller au restaurant sans passe sanitaire?
Hors de question. Non seulement je ne vais pas le supprimer, mais je vais créer d'autres passes, comme par exemple le passe Sanigro,
oui,
pour lutter contre le problème de l'obésité. Si t'es gros, tu rentres pas dans le resto.
Ah, vous êtes sûr que c'est une bonne idée, ça?
Absolument, il faut traiter tous les problèmes. C'est pourquoi je vais également ajouter le pass sanidentaire. Si tu as les dents pourries, tu ne rentres pas non plus dans le resto.
Je ne sais pas si les Français vont apprécier.
Mais je ne suis pas là pour être populaire, je suis là pour soigner les Français. Je vais donc également m'attaquer au problème des cancers du sein générés par les prothèses mammaires bon marché, en instaurant le pass sanichon.
Oh non.
Si tu as des nichons en plastique, tu ne rentres pas dans le resto.
Dis donc, il va y en avoir des passes. Hein,
c'est pas tout. Je vais également créer le passe l'aspirateur pour lutter contre l'asthme, le passe partout pour lutter contre la nanophobie et le passe taga pour lutter contre la dépression à Marseille.
Muriel Robin a accordé une interview poignante au magazine belge Le Soir où elle dit avoir envie de quitter le métier car le cinéma ne lui propose rien. Bonjour Muriel, comment se fait-il qu'on ne vous propose pas de rôle?
Qu'on ne me propose pas de drôle, je sais pas. Mais pas drôle, c'est pas drôle.
D'accord, ils sont sérieux. Avec quel réalisateur avez-vous envie de tourner, Muriel?
Avec quel réalisateur? Peu importe. Moi, tant qu'on me fait tourner, je suis contente. Maintenant, je vais faire tourner une machine.
C'est amusant. Mais plus sérieusement, quel genre de rôle aimeriez-vous jouer au cinéma?
Quel genre de rôle? Hein? En tant que femme de gauche, j'aimerais bien jouer quelqu'un qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Du genre Muriel Robin, des bois.
En lien permanent avec le public depuis la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet est la nouvelle coqueluche des médias français. La Grande Librairie, l'émission littéraire de France 5, l'a invité en duplex dans son prochain numéro.
Bonjour et merci de m'inviter dans la Grande Librairie. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous parler de mes livres préférés.
Ah ben non mon gars, tu t'es gouré. Ici t'es pas à la Grande Librairie, t'es à la Grande Enculerie. Allez hop, générique. Bon alors, mon Thomas, tu te fais pas trop chier là-haut?
Pas du tout, il y a beaucoup de choses à faire. Ce matin, par exemple, j'ai fait une expérience sur le comportement des liquides en apesanteur avec mon collègue russe, Ivan Masturbov.
Ah d'accord, c'est pas la station spatiale, c'est la station faciale, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit à la con, là?
Absolument, j'ai posé mon saxophone sur un boîtier électronique et ça a bloqué ma collègue chinoise, Tammy Tétong, dans le sas de décompression.
T'es pas content?
Oui, ça veut dire tu nous fais chier avec ton saxo en chinois. Comme vous le voyez, il y a une bonne ambiance. Hein.
Bah j'espère que les chiottes sont grands parce que vous avez l'air de vachement vous faire chier là-haut. Tiens, en parlant de chinois, à quoi elle ressemble la grande muraille de Chine depuis l'espace?
On la voit bien, mais vu d'ici, elle est quand même vachement plus petite que ma bite. Ce matin, en faisant pipi, je me suis dit, ma bite, c'est la grande muraille de Pine.
Oh, mais en fait, avec sa tête de premier de la classe, c'est un rigolo, le gars. Il est marrant, le gars.
Bon, je vous laisse. Faut que j'aille libérer ma collègue chinoise, sinon je sens que ça va péter.
Bon, ben voilà, c'était Thomas Pesquet en direct de l'espace. La semaine prochaine, je recevrai la candidate écologiste Sandrine Rousseau, qui est tellement perchée qu'elle pourrait elle aussi se mettre en orbite. Et dans orbite, il y a bite. À la semaine prochaine.
Je dois enchaîner là.
La semaine prochaine, allez, je ne sais pas.
C'est pas...
Oui, bah c'est bon. C'est
pas allons en paix.
11 ans.
N'en rajoutez pas.
9 ans d'âge mental, 8 ans.
Oui.
Alors, c'est tant mieux d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes là. On se retrouve sur le site rtl.fr et merci à toute l'équipe. Demain matin.
Merci. De rien. Merci.
Une bonne chouchouka. C'est le programme de Cyril Lignac dans un instant sur RTL. Restez avec nous. Bonne journée à tous.
RTL Matin. Yves Calvi.
Ah, c'est une certaine Edith qui nous écrit de Belfort. Bonjour Cyril, excusez-moi.
Bonjour,
qui voudrait connaître votre recette de chouchouka algérienne.
Ah, déjà, voilà. j'ai appris à la faire avec mes copines israéliennes. En fait, on prend les poivrons, on les met au four à 200 degrés pour bien les cuire et un petit peu les brûler.
D'accord.
Ensuite, quand ils sont bien cuits, on les sort, on les met dans un sac de congélation pour que ça fasse de l'humidité. Et qu'ensuite, on puisse enlever la peau et qu'on puisse après les confire.
C'est finaux, ça. D'accord.
Donc, le principe, c'est ça. C'est qu'ensuite, on les épluche, on enlève la peau, on taille des bandes, on prend des tomates, des petits dattes Rhino, juste comme ça. On les cuit, on fait une petite sauce tomate. On ajoute à l'intérieur nos poivrons qui sont déjà cuits et épluchés. Oui. On met de l'ail. Et là, on laisse cuire avec un peu beaucoup d'huile d'olive.
Oui, c'est sublime.
Et là, on laisse mijoter et ça doit compoter, là. C'est voilà. Ça qui est bon. Bah, alors, on peut y mettre un peu de sucre, pas de sucre, si on l'aime un peu caramélisé. Et là, on laisse mijoter. On a ce mélange de poivrons, de tomates. Et là, je les laisse juste comme ça. Après, moi, j'aime bien les cuisiner. Donc ça, soit on la mange comme ça, soit je les prends, je mets au fond de ma petite poêle, je les fais chauffer, je casse deux œufs que je mets au milieu, et là, je laisse mijoter tout doucement. Je prends du pain juste à côté, et là, on mange un petit peu avec le pain. Oh là là, ça, c'est vraiment bon. Et c'est un plat qui se suffit à lui-même. Alors, l'avantage de la chouchouka, c'est que soit on la mange froide, soit je l'aime tiède, soit je l'aime sur des pâtes fraîches aussi. Et je peux l'accommoder à plein de choses. Alors, je suis un enfant gâté, j'ai mes copines israéliennes, elles m'en préparent dans des boîtes. Je les mets dans mon frigo et c'est mon condiment du soir.
Vous me les présenterez, vos copines israéliennes?
Ouais.
Ça m'intéresse beaucoup.
Et ça, c'est délicieux. Je vous emmènerai une petite barquette.
Ah, avec du pain grillé à l'huile d'olive, c'est merveilleux. Toute la recette est à retrouver sur le site rtl.fr. Nous sommes bien d'accord?
Oui.
Je vous remercie. À demain.
À demain.
RTL. Revivre ensemble.
Il est très exactement 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Olivier Bois.
Elon Musk va tomber dans 21 nouveaux départements à partir de lundi où le taux d'incidence est durablement passé sous les 50 cas pour 100 000 habitants. 47 départements font déjà appliquer cette mesure en France. À propos de la crise sanitaire, nouveau conseil de défense aujourd'hui. Au programme, la recommandation de la Haute Autorité de Santé pour cette troisième dose pour les personnels soignants ou pour les personnes qui vivent avec un malade à risque. Cela concerne en tout 3 700 000 Français. Ça n'est pas encore à l'ordre du jour pour le reste de la population. Le Conseil de défense va également évoquer à nouveau l'hypothèse des levées progressives du pass sanitaire. Ce sera l'image du jour au stade Vélodrome après 17h. Le cercueil de Bernard Tapie porté par les supporters marseillais jusqu'au centre du terrain. Le match OM Milan AC de 1993 qui a fait de Bernard Tapie une légende dans la ville sera également diffusé au public présent dans les tribunes. C'est une information RTL. La vie de plus d'1 million de Français va être simplifiée à partir du 1er janvier. Ils bénéficieront du crédit d'impôt en temps réel quand ils emploient par exemple une aide ménagère ou un jardinier. Le patron des députés En Marche, Christophe Castaner, l'assure, une loi allongeant le délai d'IVG de 12 à 14 semaines sera bien débattue à l'Assemblée nationale d'ici la fin novembre et pourra bien, selon lui, être adoptée avant la fin du mandat. L'équipe de France de football affronte ce soir à 20h45 la Belgique en Ligue des Nations. Soirée spéciale sur RTL dès 20h40. Hier soir, l'Espagne, en battant l'Italie de Buzyn, s'est qualifiée pour la finale de la compétition qui se jouera dimanche soir. Et puis la commission de discipline de la Ligue a rendu les sanctions après les incidents des matchs Lens-Lille et Angers-Marseille. Un point de pénalité avec sursis pour les deux clubs des Hauts-de-France et pour l'OM. A noter que Lille et Marseille voient leur parcage également visiteurs fermé jusqu'au 31 décembre.
Quelle énergie! Merci Olivier Bois. On va se...